fait, ce qui a paralysé la Chine, ce qui a ruiné l'Union soviétique, ce qui ruine le Cambodge, le Vietnam et un certain nombre de pays dans le monde, c'est le communisme ou certains autres, les formes amoindries que sont le socialisme. Mais si vous, nous devons donc échapper à ces formes-là et à toutes les formes parallèles si nous voulons mériter notre place au soleil, car elle nous sera disputée.
Mais
elle
vous,
est déjà disputée.
Vous nous dites qu'un des moyens, le premier moyen probablement de faire face, c'est d'inspirer à ce pays un redressement moral. Or, il suffit d'ouvrir les yeux, il suffit d'allumer la télévision, il suffit d'ouvrir un journal pour voir que, en matière de morale, on n'est même plus dans une situation d'affaissement. On est dans une situation d'effondrement apocalyptique. Je regardais tout à l'heure dans National Hebdo la reproduction de pages d'une bande dessinée qui est distribuée apparemment dans les lycées pour lutter contre, enfin sous prétexte de lutter contre la pandémie de sida. Or, ça c'est ce sont des choses que il y a 10 ans ou il y a 15 ans, on n'aurait pas trouvé sous le manteau dans les pires bouges de Pigalle.
Oui.
C'est de la pornographie absolue,
oui,
totale.
Bon, il y a des émissions de télévision que les sous-maîtresses de Lupanar auraient trouvé indignes de leurs clients.
Il y a une série d'émissions toutes les semaines qui s'appelle Bas les masques ou je ne sais quoi, qui présentent systématiquement comme normatif les comportements déviants les plus totaux. Moi, je m'attends à voir n'importe quoi dans cette émission.
J'ai vu d'ailleurs les ouvrages dont vous parlez, qui sont des ouvrages pratiquement officiels ou officialisés,
oui,
puisqu'ils sont publiés sous l'égide d'associations qui ont en quelque sorte la bénédiction des pouvoirs publics, et sous le prétexte de lutter contre une pandémie que l'on ne veut pas, dont on ne veut d'ailleurs pas mettre en cause les prémices, donnent des images en effet de comme de comportements banals plutôt, et normatifs, des comportements homosexuels soulignés par le dessin.
Oui, exposé très vulgairement.
Crûment, d'ailleurs, non plus que crûment, très vulgairement.
Alors, est-ce que vous avez, vous, je pense, à, je vais faire un parallèle qui va vous paraître bizarroïde, mais vous parliez à l'instant de zones franches, en quelque sorte, qui sont ouvertes par la Chine et qui attirent les capitaux et les grandes sociétés internationales. Et je me souviens qu'en 86, Madeleine, qui était ministre du Commerce et de l'Industrie, je crois, avait envisagé, mis sur pied, en tout cas élaboré un projet de transformation du quartier de la Défense en zone franche, dont il espérait des résultats formidables. Alors je dirais que, en tout cas, il peut y avoir en France aujourd'hui, de la part de gens qui ne sont pas partie prenante dans le système socialiste, des initiatives de nature à changer le déroulement des choses. Alors, c'est possible économiquement, mais moralement, quelle solution pratique envisagez-vous pour faire que les impératifs moraux, qui sont quand même les fondements de l'ordre social, soient remis à leur juste place et non plus systématiquement tournés en dérision, bafoués, avilis, abaissés ou traités comme une espèce de survivance du nazisme. Parce que maintenant, quand on dit qu'on est contre l'homosexualité, c'est qu'on est émule d'Hitler, ça c'est clair.
Oui, mais d'ailleurs, toute position normative passe pour hitlérienne. Il suffit de réclamer que soit respecté l'ordre de la loi pour être immédiatement taxé de fascisme. Comme si l'antifascisme consistait en une dilution totale de toutes les règles et de tous les principes. Alors il faut rétablir objectivement et clairement les principes de la vie, les principes de l'État, et en tirer sur le plan législatif et gouvernemental toute une série de conséquences. C'est pour cela que nous avons qualifié, nous au Front National, notre programme, non pas d'alternance, mais d'alternative. Nous ne nous reconnaissons dans aucune des propositions qui sont faites par nos adversaires et concurrents, parce que toutes celles-ci, toutes ces positions impliquent l'adhésion au système dissolvant de l'immoral actuel, ou de la morale, l'apostrophe, auquel doivent, semble-t-il, souscrire tous les hommes publics, sous peine d'être dénoncés, en effet, comme des suppôts de Satan, des militants hitlériens, ou au mieux, partisans de Mussolini.
Vous savez, je relisais cet après-midi un article qui est paru il y a quelques semaines, enfin 2-3 mois dans Libération, au moment du synode des évêques, parce que plusieurs auditeurs et plusieurs personnes m'ont reproché d'avoir fait à ce micro état d'une déclaration de Mgr Julien qui passe pour un esprit ferme, disant ben, si j'avais un fils, je lui dirais va pour le préservatif. Alors j'avais reçu tellement de protestations à la suite de cette déclaration que je me suis dit quand même j'ai pas rêvé. Donc j'ai repris cet article, un article d'une page publié dans Libération sous la signature d'un certain Denis Vent, je crois, ou d'un Yvan, j'ai plus la signature précise en tête. La phrase est en toutes lettres. Mais c'est pas ça qui a retenu mon attention, c'est qu'un autre évêque disait, dans le même article, vous comprenez, il y a une confusion dans l'esprit des gens, nous ne voulons pas être assimilés à des défenseurs de l'ordre moral. Alors, on en est arrivé là, c'est-à-dire qu'un évêque, bon, qui est un successeur des apôtres, qui est un des chefs de l'Église catholique en France, dit que ce qui l'inquiète, ça n'est pas l'état de décadence, de déliquescence des mœurs, la disparition de toute morale, la disparition de tout code social, parce qu'on en est là, c'est ce qui l'inquiète, c'est qu'on pourrait croire qu'un évêque s'inscrit au nombre des défenseurs de l'ordre moral.
C'est exactement l'attitude des partis politiques à l'égard du Front National. Ce qui est leur ennemi, ce n'est pas le feu qui brûle. Ce n'est pas l'incendie qui ravage la cité, les dangers qui nous menacent tous, et l'avenir de la nation et de son peuple. Non, c'est le Front National qui dénonce, à tort ou à raison, mais qui dénonce cet état de fait, c'est lui qui est réputé l'ennemi numéro un, et c'est contre lui qu'on s'allie avec n'importe qui. Monsieur Chirac ne voit strictement aucun inconvénient et même que des avantages à s'allier aux trotskistes verts, aux communistes rouges du sang de millions d'hommes, aux socialistes qui ont ruiné la France. Dans toutes les assemblées, ils font objectivement, de façon réaliste, des alliances, comme ils en font aux élections, pour empêcher l'élection ne serait-ce que d'un seul Front National. Tant nous avons été, par ces gens-là, diabolisés, et tant on peut dire qu'ils marchent sur la tête, mais je crois que c'est Chamfort qui avait dit, nous sommes dans un pays où ce ne sont pas les incendiaires qui sont mis en prison,
mais ceux qui sonnent le tocsin.
Donc c'est malheureusement un trait exacerbé de nos défauts nationaux.
Alors, il y a une demi-heure qu'on est ensemble, Jean-Marie Le Pen, sur Radio Courtoisie, qui est diffusée sur...
Un certain nombre d'ondes, mais c'est pas la peine de le redire.
Si, il faut le dire 3 fois par heure.
On dit simplement qu'on est sur Radio Courtoisie et que Serge De Becquetch reçoit Jean-Marie Le Pen.
Vous vous arrangerez avec la haute direction.
Oui, très bien, très bien.
Alors, y a-t-il, de la part de nos auditeurs, des questions relatives au sujet qu'on a évoqué jusqu'à présent?
Non, il y a beaucoup de messages de vœux, de contentement, de voir.
Donnez-nous ça toujours.
Ben, merci.
Vous n'avez pas tant l'habitude d'entendre.
Merci d'avoir Jean-Marie Le Pen. Au moins chez vous, on l'entend. Pourvu qu'il nous remonte un peu le moral à nous, les militants. Grand plaisir d'entendre Jean-Marie Le Pen. Remerciement à Serge De Becquetch pour avoir invité Jean-Marie Le Pen.
C'est facile
meilleur
de faire un tabac.
Meilleur vœu à notre vice-président pour qui j'ai une admiration sans borne. Et alors là, il vous pose aussi des questions, mais c'est des questions un peu en dehors de ce qui a été traité jusque-là. Je les garde ou non?
Ben, vous pouvez peut-être les garder, puis à mesure que notre entretien avancera, vous les mettrez dans l'ordre pour que le président
puisse... Et puis là, il y a aussi... Enfin, quel plaisir d'entendre Monsieur Le Pen, mais que fera-t-il contre le blackout des médias contre nous?
Eh bien voilà,
Que pense-t-il de son boycott médiatique?
Alors, très bonne liaison. Vous voyez que la Providence est avec nous, puisque c'était dans la suite de notre entretien ce que je voulais évoquer. Parce que j'entendais encore ce matin, je ne sais plus quel journaliste, et encore une fois, j'espère que vous avez une réserve de guillemets à côté de votre poste de radio, parce que là, il faut en mettre. Donc, quel journaliste expliquait que... il y avait plusieurs programmes dans l'opposition, mais qu'en réalité, on ne savait pas exactement ce que ces programmes avaient de commun. Alors, il y avait le programme du RPR, le programme de l'UDF, et encore, il n'y avait pas qu'un programme au RPR, et pas seulement un programme à l'UDF, etc. Alors, j'ai écouté pendant un moment en disant peut-être qu'ils vont finir par parler du programme du Front National, tout peut arriver. Or, pas une seule seconde, il a été question du Front National. Et visiblement, là, maintenant, ça n'est même plus une hypothèse, c'est une réalité visible et vérifiable tous les jours, sur toutes les chaînes de radio, toutes les chaînes de télévision et dans tous les journaux. Le Front National n'existe plus, Jean-Marie Le Pen n'existe plus, sinon sous la forme d'enquêtes comme le grand moment de comique que nous a réservé Sorge Chalandon dans Libération ce matin. Je dois dire que j'ai bien rigolé, puisqu'il fait une enquête sur le non-dit de l'antisémitisme à l'extrême droite, où mes articles ont l'honneur d'être cités plusieurs fois. Mais quand on voit ce qu'il qualifie d'antisémite, on se dit que vraiment la barrière devient de plus en plus facile à franchir. C'est-à-dire que pratiquement, on ne peut plus rien dire qui ne soit taxé d'antisémitisme.
Il y a une question que vos auditeurs doivent se poser, comme moi je me la pose. Quelle est la force qui est capable de réduire en esclavage, à quelques rares exceptions près, l'ensemble des journalistes intellectuels et écrivains français? Bon, je la connais, c'est la peur. Mais qui tient les ressorts de cette peur? Parce que visiblement, il est incroyable qu'en France, des gens aient une attitude commune consistant à violer délibérément les règles morales de leur profession pour étouffer la vérité, étouffer la réalité. Qui et sous quelle menace ou avec quelle promesse arrive-t-on à réduire au silence les éditorialistes de la presse écrite, les journalistes de télévision ou de radio, car même quand il y avait Hitler, il y avait quand même des petits sursauts de résistance. Il y avait des
gens qui allaient en prison d'ailleurs.
Il y avait des gens qui quittaient le pays pour ne pas subir les oukases du docteur Goebbels. Eh bien, dans notre pays, il n'en est pas ainsi. Et ils ont réussi, à travers des provocations, d'un cynisme et d'une vulgarité étonnante, n'est-ce pas, presque incroyable, à donner prétexte pour que on ne parle plus du Front National, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, de son programme, dans l'espoir qu'ayant en effet empêché les pompiers d'arriver sur les lieux du sinistre, celui-ci ne s'étendra pas. Eh bien, ce qui va se produire, c'est que si le Front National est bâillonné, il ne pourra l'être indéfiniment. Parce qu'il y a quelque chose qu'on ne pourra pas bâillonner, ce sont les phénomènes de décadence et les dramatiques conséquences pour le peuple français. Et c'est à étouffer cela qu'ils devraient s'occuper, ceux qui nous combattent, à étouffer ce qui peut nuire au peuple français. Non, ils veulent étouffer ceux qui dénoncent cette décadence, et il est vrai, les responsabilités encourues par un certain nombre de nos dirigeants.
Alors, cela dit, les faits a pu en être vérifié, l'effet de cette stratégie a pu être vérifié à l'occasion de la campagne autour de Maastricht, puisque alors que le Front National avait été la première et la seule d'ailleurs formation politique à prendre unanimement et totalement position contre le traité de Maastricht, Elle a été, cette formation politique, écartée systématiquement du débat, elle a été niée, ses propositions ou ses affirmations n'ont pas été relayées par la presse, par la grande presse, par la presse dite grande, les radios, les télévisions et les journaux nationaux, non pas nationalistes mais nationaux. Et le résultat, c'est qu'on a vu dans nos rangs beaucoup de sympathisants, de militants, d'adhérents, d'électeurs, dire, oh ben vous voyez, on n'a pas entendu Le Pen dans l'affaire de Maastricht, le Front National s'est écrasé, ils n'ont pas pris position, ça prouve que finalement ils n'y croient plus. Et il y a eu un effet démobilisateur indiscutable.
Oui, non, mais c'est le résultat recherché et atteint dans une certaine mesure. Mais c'est à nous, avec notre volonté, notre imagination, de trouver les moyens palliatifs contre cet étouffement, contre ce bâillonnement.
Alors je voudrais en venir, là, je crois qu'effectivement il faut trouver des moyens palliatifs, mais je voudrais en venir à un sujet dont je sais qu'il est toujours un peu délicat, puisque chaque fois que je l'ai évoqué, ça a soulevé des contestations. C'est la question de la presse sympathisante. Est-ce que vous ne croyez pas quand même que tout n'est pas fait pour soutenir, développer, appuyer cette presse qui n'est pas une presse hostile, et je dirais même qu'il est tout le contraire d'une presse hostile, de façon à conduire les adhérents, les sympathisants, les électeurs et même les curieux à se dire... Eh bien, au lieu de ne lire que des journaux qui systématiquement censurent ou insultent les idées nationalistes, on pourrait lire des journaux qui, au moins, les présentent avec une certaine sympathie, une certaine faveur. C'est vrai que on a l'impression que, aussi bien d'ailleurs dans la base que dans les cercles dirigeants des mouvements de la droite nationale et principalement du Front National, il y a une indifférence ou une inattention au travail de la presse nationale. Moi, je vois les gens me parler toujours de Libé, du dernier papier de Libé, du dernier papier du Monde, mais jamais ou rarement ou pas assez souvent. Alors, c'est pas votre cas d'ailleurs, parce que vous citez systématiquement Président, National Hebdo, etc. Est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'il y aurait un gros effort de formation militante à faire ?
Sûrement. Sûrement, mais il faut dire aussi que les moyens qui sont à notre disposition sont hors de proportion avec ceux de nos concurrents et adversaires de l'établissement qui bénéficient des subventions publiques, car il ne faut pas oublier que c'est avec l'argent des contribuables du Front National qu'on organise l'étouffement dans la presse. Parce que un certain nombre de dirigeants de journaux et de journalistes disent « Mais comment ? Mais nous avons le droit de penser et de dire ce que nous voulons, et même à la limite de boycotter qui nous voulons. » Oui, c'est vrai, si on n'avait pas besoin de notre argent pour vivre. Mais oui, dans la mesure où ils ont besoin de notre argent pour vivre, eh bien, cette position est une position immorale, en tous les cas profondément injuste, et qui contient en elle-même les germes de son propre châtiment un jour ou l'autre.
Je dirais que quand madame comment s'appelle-t-elle, elle a tellement de noms, que madame Sinclair se vante dans son émission qui est faite, si je ne m'abuse, sur une télévision libre, enfin une télévision privée. Quand elle dit je ne reçois pas, je n'ai jamais reçu Jean-Marie Le Pen et je m'en flatte, je dirais qu'elle est dans son droit. Elle travaille pour un patron qui vend de la publicité, qui vend de l'espace publicitaire. Y a une réaction très simple à avoir, c'est de dire, écoutez, comme TF1 ne diffuse pas, accepte qu'une collaboratrice importante fasse état de ses choix personnels, de ses convictions politiques personnelles, pour censurer 5 millions de Français dans son émission, eh bien ces 5 millions de Français vont réagir
en
ne l'écoutant pas et en achetant aucun des produits dont la publicité finance les émissions de cette dame. Ça, ce serait, je dirais, de l'ordre de la justice. Mais quand M. Amar, qui est un fonctionnaire, qui est un employé d'une télévision d'État, vient frétiller des yeux pour nous expliquer que lui aussi, gros malin, il n'invite jamais les gens du Front National, eh bien c'est une forfaiture, parce que M. Amar n'est pas sur FR3 ou antenne, ou F2 ou F3, pour faire son malin, c'est un lecteur de dépêches, et il est là pour lire les dépêches, auquel tous les Français ont droit et pour donner toute l'information à laquelle tous les Français ont droit. Et par conséquent, si M. Hamard n'est pas capable de faire ce métier de lecteur de dépêches, il faut qu'il aille travailler dans un cirque, par exemple.
Oui, mais M. Hamard veut mettre le service public à la disposition de ses idées.
Alors,
il n'est pas le premier à vouloir le faire. Les communistes l'ont fait et continuent d'ailleurs à le faire par personne interposée. Il y a un certain nombre de gens qui se sont emparés du bien commun et qui s'en servent à leur bénéfice exclusif.
Alors, une auditrice nous dit, étant donné l'injustice flagrante de ces comportements, quand une radio, une télévision, une radio d'État se vante par la voix de ses présentateurs, de ses responsables, se vante ouvertement par des déclarations publiques enregistrées de boycotter un parti politique légal qui est représenté à la Chambre, qui a 5 millions d'électeurs. Cette auditrice dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de saisir une instance, comme le CSA ou une cour de justice quelconque, pour dire, là, il y a une atteinte aux droits des gens?
Oui, nous avons saisi le CSA, qui répond que ce n'est pas de sa compétence, et nous sommes tout à fait impuissants sur ce terrain-là. Il s'agit d'un système, d'un mécanisme de partage du pouvoir. Voilà. Il faut bien se rendre compte que la loi de la concurrence, qui est la seule garantie, tant dans le domaine économique que dans le domaine politique, de la liberté des citoyens, peut être tournée par des ententes secrètes. Et visiblement, c'est le cas. Et il n'y a plus de démocratie quand le pouvoir et l'opposition se mettent d'accord secrètement sur un certain nombre d'objectifs. Or, c'est ce qu'avait révélé, je l'ai déjà dit à cette antenne, c'est ce qu'avait révélé imprudemment le président de l'UDF, M. Longuet, lors d'un discours du président de la République évoquant une modification du système électoral. Il avait lancé un avertissement, il avait dit, si le président de la République change le système électoral, c'est-à-dire rétablit la proportionnelle, eh bien, nous remettrons en cause le pacte républicain. Et c'est ainsi que nous avions appris, et ainsi que les Français qui savaient écouter, qu'il y avait entre le RPR, l'UDF, le Parti Socialiste et le pouvoir, un pacte qualifié par Antifras sans doute de républicain, et dont l'objectif était de museler le Front National, de l'empêcher de grandir, voire même d'exister. Et dans une certaine mesure, et pour un certain temps, cela a des effets qui ne peuvent trouver de remède que par l'effort des militants, l'effort des sympathisants et l'effort des électeurs eux-mêmes. Si les électeurs français ne sont plus capables de défendre leurs droits et d'exiger et de remplacer ceux qui ne font pas ce métier, alors ce serait à désespérer de tout. Mais ce n'est pas ce que je fais, puisque moi je suis partisan de toujours se battre et en espérant que Dieu donne la victoire, comme Jeanne d'Arc. Mais c'est sûr qu'il s'agit là d'une des agressions les plus ignobles et les plus cyniques contre la liberté, et je me demande comment un certain nombre de journalistes et d'hommes de presse osent se regarder dans la glace.
Si j'osais, je dirais que c'est la preuve de votre candeur, parce que
oui,
vous croyez que ces gens-là sont honnêtes, mais je crois qu'on est assez loin du compte, malheureusement. Est-ce que vous ne pensez pas aussi, ou est-ce que vous rejetez définitivement toute hypothèse de représailles? Je dirais, de représailles, il est évident que si, avec les moyens d'information dont vous disposez, qui ne sont pas gigantesques, mais qui existent, je veux dire, la presse comme Bon Présent, National Hebdo, Minute La France, National Vidéo, les radios qui vous donnent la parole, et puis des mailings également, des postages, des listes d'adresses de sympathisants, d'adhérents. Si vous lanciez une campagne de boycott, en disant, écoutez, voilà, nous allons réagir contre une campagne ponctuelle de boycott, en disant, voilà, telle personne, par ses publicités, finance une opération de déstabilisation et de calomnie et de négation du Front National, et, c'est-à-dire de 5 millions d'électeurs. Eh bien, ces 5 millions d'électeurs ont le devoir de réagir, réagissez, boycottez les produits de cette marque, refusez d'acheter les produits de cette marque, refusez d'écouter les émissions de cette personne, refusez d'écouter les émissions de cette chaîne. Ne répondez pas quand on vous sonde en disant que vous avez écouté telle chaîne, mais répondez à côté, etc. Est-ce que vous croyez pas que ça pourrait avoir un effet ?
Oui, sûrement. Et il faudra que nous utilisions contre ce complot et contre cette agression les moyens qui sont ceux des pauvres, c'est-à-dire les moyens, disons, des francs-tireurs. Et par des ciblages ou des cibles bien choisies, beaucoup de journaux ne survivent que à la limite vitale en quelque sorte, et il est certain qu'une attitude concertée d'un certain nombre de lecteurs devrait aboutir à en faire plonger un certain nombre. Peut-être cela donnerait-il une bonne leçon aux autres.
Victoria, avons-nous des questions sur... Alors, avant, je voudrais répondre à une auditrice qui s'étonne du fait que M. Jean Ferré, dans son émission, apparemment, est présenté parmi ses vœux, exposé parmi ses vœux pour la nouvelle année, le vœu que la droite du Front National devienne intelligente. Alors, elle a l'air de croire que c'est une accusation, mais moi je trouve que c'est très très bien de souhaiter que quelqu'un... S'il avait dit « je souhaite qu'il devienne moins intelligent », ça serait désagréable, ça serait une menace, ou un souhait malfaisant. Mais devenir plus intelligent, c'est mieux. Moi, je suis très très content de ce vœu. Je pense que vous partagez cette
avis. Je l'accepte, et j'espère qu'il aura des fruits, ce vœu.
Là, on nous dit on ne parle plus de nous, mais le relais est prêt. Alain Perfide déclare, je ne vois pas pourquoi, lorsque Le Pen dit quelque chose de juste, je ne pourrais pas le répéter.
Oui,
mais en ce moment, c'est ça, ils font du Le Pen tous.
Oui.
Oui,
mais on est en période électorale.
Oui.
Alors ça, nous avons l'habitude de voir nos idées défendues généralement 3 mois tous les 5 ans. C'est la période qui précède les élections. On se souvient de 86, on se souvient de l'évolution des programmes. Le RPR voulait résoudre le problème de l'immigration, celui réformer le code de la nationalité, et à peine élu, ces programmes sont mis au placard, au balai, et on compte sur l'insondable naïveté des électeurs et leur immense capacité d'oubli pour les repiéger 5 ans plus tard et réapparaître comme des éventuels salvateurs. Je répète, comment ces gens-là, les mêmes depuis 25 ans, pourraient-ils faire demain ce qu'ils n'ont ni voulu ni su faire hier?
Oui, Jean-Marie Le Pen, vous étiez absent de Paris et vous n'avez donc pas probablement pris connaissance de ce sondage qui a été établi par le nouvel observateur et qui demandait à un échantillonnage de Français réunis par la Sofres, etc., etc., de désigner en quelque sorte leur gouvernement idéal de cohabitation. Alors le gouvernement idéal de cohabitation, qu'est-ce que c'est? Ben, les noms, c'est M. Bérégovoy, M. Lang, Monsieur Juppé, Monsieur Pasqua, quelques autres de moindre importance, et naturellement Monsieur Kouchner, qui est la nouvelle recrue des Folies Bergères. C'est lui qu'on fait descendre l'escalier avec une plume dans les fesses maintenant. Et donc, quand on est dans un pays, après 50 ans de socialisme, que ce soit le socialisme libéral entre guillemets, ou socialisme marxiste, ou socialisme marxiste libéral, ou libéral marxiste, et qu'on pose la question aux Français, quel gouvernement souhaitez-vous, et qu'on voit sortir comme dans la dans la botte, comme on dit, des gens comme ça, Lang, Bérégovoy, Balladur, Juppé, Pasqua, on se dit que vraiment, on a envie de faire son baluchon et de foutre le camp au Kerguelen. Vous croyez pas?
Oui, c'est vrai. Mais vous savez, dans ce système médiatique, sondageo-médiatique, eh bien, on retrouve à la sortie de la moulinette ce qu'on a mis dedans, simplement mâché. Vous savez, moi, quand j'étais petit enfant, quand on tuait le cochon, on mettait comme ça pour faire le pâté dans le haut du moulin à viande, des gros morceaux, puis on tournait la manivelle et de l'autre côté, il sortait de la chair à saucisse. Eh bien, le travail sur l'intellect de nos concitoyens, des sondages jumelés avec les campagnes médiatiques, c'est exactement de même méthode. Alors on jette les noms d'un certain nombre de gens qu'on retrouve évidemment à la sortie.
Mais on sait quand même que à chaque fois qu'on pose la question, on fait tomber au jackpot Lang, Kouchner, bon, l'abbé Pierre, bien entendu, dans la foulée.
Cousteau,
qui fait de mal à personne, lui, au moins.
Non, d'accord, mais je veux dire, il y a comme ça un certain nombre de noms incontournables, Madame Veil, qui connaît une certaine éclipse.
Une certaine défaveur en ce moment, oui. Ouais. Mais non, elle est dans une espèce de no man's land médiatique. Mais alors, moi je suis quand même un peu effrayé parce que ce pays qui est réputé être... j'ai appris ça à l'école, on est le peuple le plus spirituel de la Terre. Et on se demande là vraiment si l'abrutissement massif n'a pas fini par porter ses fruits.
Écoutez, il ne faut pas être trop sévère tout de même pour les citoyens. Parce que nous sommes quand même avertis de ces problèmes. Nous sommes un peu des professionnels de la communication et nous savons quels sont les ressorts secrets du fonctionnement des institutions médiatiques et qui ils servent. Les citoyens ne le savent pas. Ils ont leurs propres problèmes, leurs propres soucis. Ils reçoivent l'information, ils ne la discutent pas. Ils se croient dans un pays démocratique parce qu'ils se disent ce n'est pas possible. Si nous n'étions pas dans un pays démocratique, il y aurait au moins un homme. Un philosophe, un écrivain, un clerc quelconque, un évêque, un savant, quelqu'un qui dirait quelque chose. Or, à l'exception des victimes à qui on reproche d'ailleurs les cris qu'elles poussent, n'est-ce pas ? Eh bien, personne ne dit rien. Il y a une atonie générale, ou alors il y a des professeurs de morale qui viennent vous expliquer le pourquoi des choses. Je pense à un certain nombre de grands éditorialistes du Point ou de l'Express qui ont été ces gens-là les responsables de la décadence intellectuelle et morale de ce pays. Et qui de temps en temps montent sur leurs grands chevaux pour donner des leçons et développer des truismes contestataires.
Alors ce matin, alors que vous étiez en train d'errer dans l'éther à la recherche d'un aéroport, moi j'étais dans mon automobile et j'écoutais une radio qui, pour ne pas le nommer, n'est pas Radio Courtoisie, et j'en demande bien pardon à la compagnie, mais qui est Europe numéro 1. Et alors j'entendais... c'était Monsieur Duhamel, un des Duhamel, je ne sais jamais lequel, mais enfin un Duhamel, qui venait présenter son livre, parce qu'il écrit 2 livres par an, comme
dont il assure la propre promotion,
9 par nuit. Et alors, il venait présenter son livre dans l'émission de Monsieur Elkabbach Jean-Pierre. Et alors, naturellement, ce livre est pure merveille, ça va sans dire. Mais ce qui était extraordinaire, c'était le discours d'Elkabbach qui disait, vous savez, ce qui est fantastique avec Duhamel, c'est que c'est un homme courageux. Vous voyez, c'est une chose rare aujourd'hui, les hommes courageux. Eh bien, Duhamel est un homme courageux, car Duhamel n'a pas peur de dire la vérité. Et la vérité, aujourd'hui, c'est très très rare, les gens qui ont le courage de la dire. Et Duhamel est un homme courageux qui dit la vérité. Et Duhamel répondait, eh oui, que voulez-vous, je suis fait comme ça, je ne peux pas faire autrement. Et c'était extraordinaire, enfin c'était un numéro d'Elsa Popine ou un numéro de... On avait l'impression d'entendre les Marx Brothers. Eh bien ces gens-là...
C'était les Marx Brothers.
Et ces gens-là font leur numéro, avec une impudence extraordinaire. Et je pensais aux milliers, aux dizaines de milliers, aux centaines de milliers de gens qui écoutaient ça et qui probablement se disaient, ben oui, si El Kabbach dit que Duhamel est courageux et qu'il dit la vérité, c'est bien que ça doit être vrai.
Et remarquez que Duhamel est prêt à rendre le même service à El Kabbach pour peu qu'El Kabbach écrive un livre. Parce que c'est un des traits caractéristiques de l'établissement politico-médiatique, et c'est qu'ils assurent leur propre promotion réciproque. N'est-ce pas? Vous en êtes un autre, mais vous êtes le meilleur éditorialiste, mais vous, monsieur, le meilleur sociologue, mais nous sommes d'ailleurs d'accord, notre ami qui est là, le meilleur metteur en scène, ainsi que le meilleur acteur. Et alors on fait venir chacun à son tour de bête pour dire du bien des siens et de ses amis, et du mal de ses adversaires. Alors nous sommes dans le camp des parias, mais vous savez, le bon La Fontaine, je le répète sans cesse, a tout écrit, tout. Et le loup et l'agneau, c'est bien ça. J'en résume l'esprit. Tu troubles mon eau, dit-il à la.
Qui te rend si hardi de troubler mon breuvage?
Si de troubler mon breuvage, vous citez vous littéralement, moi, je résume. mais je bois en aval. Mais que cela ne tienne, si ce n'est toi, c'est ton frère. Mais je n'ai pas de frère. Oh oui, mais on vous connaît, vous, les agneaux, avec vos bergers et vos chiens. Vous nous faites du mal depuis des générations. Et crac, il le croque. Eh bien, nous sommes exactement dans ce type de situation. Une situation de privilégié, abusif, bénéficiant de rémunérations dont quelques-unes sont illégales d'ailleurs ou parallèles, mais disproportionnées avec le mérite de ceux qui les reçoivent, défendent un système qui marche. Que ce système marche en même temps que 6 millions d'immigrés, 5 millions de chômeurs, 1 million de grands pauvres dans ce pays, en même temps que l'armée se désintègre, que la nation se dissout et disparaît, ça leur importe peu, leurs affaires à eux marchent. Il y a de la soupe dans la gamelle, il y a des vacances au bout du compte, et puis il y a un peu d'argent placé un peu partout.
Quand on voit les donneurs de leçons médiatiques se presser, grouiller littéralement autour d'un capitaine d'industrie qui les emmène au bout du monde, ou plutôt d'un chevalier, pas un capitaine hélas, un chevalier d'industrie qui les emmène au bout du monde dans son bel avion blanc, et il rentre en disant oh, mais je ne savais pas du tout, moi je croyais que j'étais invité par un ami, je ne savais pas que ce monsieur avait profité de moi. C'est quand même extra. Alors, je fais une parenthèse. Un auditeur dit le boycott et ses appels sont interdits. Je le rappelle à Serge de Beketch. Oui, si je disais boycotter la marque Duchemol, je pourrais être poursuivi.
Surtout la marque Duchemol.
Surtout la marque Duchemol. Mais il se trouve que je n'ai pas dit boycotter la marque Duchemol. J'ai dit, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de lancer un appel aux représailles commercial, puisque ces gens ne vivent que pour leur portefeuille, eh bien, je n'ai désigné personne et j'attends que personne me poursuive. Ça serait intéressant.
Vous serez poursuivi, monsieur de Beketch. Vous serez poursuivi et condamné à des millions de dommages intérêts.
Mais vous savez, on ne peut pas tondre un œuf.
Ah, alors vous irez en prison.
Depuis le temps que j'ai envie de me reposer.
Nous lui enverrons des chocolats et des oranges.
Attention, je vais déjà quand on va en prison, ça peut être très redoutable. Ouais. Il y a des endroits comme ça où votre santé est brusquement mise en péril. Ça peut être tel hôpital, ça peut être telle prison.
Bien écoutez, justement, j'allais vous parler de ça. Parce que parmi les donneurs de leçons, il y a aussi les hommes politiques. Et nous en connaissons qui ne sont pas les derniers à venir nous asséner des conseils de rigueur, de morale et de comportement honnête. Or, le moins qu'on puisse dire, par exemple, c'est que quelqu'un comme le président Giscard d'Estaing n'a pas de chance. Mais il ne fait pas bon être de ses amis, au fond. On peut dire que c'est un homme qui connaît. Non, il est entouré de deuil, littéralement.
Ah, oui.
Sa vie est constellée de deuil tragique.
Oui.
De Breuil, qui était son ami, Monsieur Fontanet, qui était son ministre, Monsieur Boulin, qui était également son ministre. Alors, deux assassinés, un noyé. Et voilà maintenant que c'est Monsieur Xavier de La Fournière, qui n'était pas son financier. Monsieur Xavier de La Fournière est un personnage extraordinaire. Il avait énormément de fric. Il l'a donné, mais personne ne l'a reçu. C'est un personnage étrange, un personnage un peu balzacien comme ça, mais d'une dimension irrationnel, surréaliste de Balzac. Il distribue du fric et ce fric n'atterrit jamais. Il le lance par la fenêtre et il n'arrive jamais dans la rue. C'est du fric ascensionnel puisque lui, il a dit « Moi, j'ai donné des milliards à M. Giscard d'Estaing » et M. Giscard d'Estaing a dit « J'ai vérifié » car ça aussi, c'est quand même magnifique, il a fallu qu'il vérifie. Parce qu'il n'était pas sûr. Il disait « Mais au fait, est-ce qu'il m'aurait donné des milliards ou pas ?»
Il y a quelque chose qui me frappe. Moi, je n'avais pas de sympathie particulière pour M. de La Fournière. Mais enfin, bon, il lui est reproché un certain nombre de délits touchant aux finances. Et quelle que soit la gravité de ceci... Ils sont toujours réputés moins graves que ceux qui touchent aux affaires de sang. Suivez mon gars. Et que cet homme meure d'une crise cardiaque en prison, ça n'a pas l'air d'émouvoir outre mesure l'état de Jean-Cy. Il s'était agi d'un détenu immigré, par exemple. Il y aurait une émotion extraordinaire. Comment se fait-il qu'un immigré ait pu mourir d'une crise cardiaque? Il y a certainement un complot là-dessous, anguille sous roche, des menées noires ou qui rappellent les périodes les plus sombres de notre histoire. Là, il s'agit tout de même d'un personnage de relative importance. Bon, je sais bien qu'une crise cardiaque peut frapper un athlète en pleine course. Mais il s'agissait, semble-t-il, d'un homme malade. Alors, il avait droit à la même considération que tout le monde, que n'importe quel violeur d'enfants, je pense. Et s'agissant d'un homme de ce niveau... sa détention ne s'imposait peut-être pas avec cette rigueur, mais il semble que à partir du moment où une bouche qui aurait pu faire des révélations est définitivement close, la classe politique en est tout à fait satisfaite et rassurée. Voilà. C'était arrivé à M. Pellat, c'est arrivé à beaucoup d'autres.
C'est vrai qu'ils n'ont pas de chance.
Eh bien, enfin, le silence et la paix des tombeaux.
On comprend que M. Boucheron ait trouvé urgent d'aller ouvrir un restaurant à l'autre bout du monde.
Il ne fallait pas rester trop près de ses amis.
Victoria.
Quelle mesure économique peut-on trouver entre le socialisme et le libéralisme sauvage, demande une auditrice.
Quel
entre le socialisme...
Non, la question, pardon.
Quelle mesure économique peut-on trouver entre le socialisme et le libéralisme sauvage, et demande un auditeur, Jean-Marie Le Pen est-il pour un capitalisme à outrance pour remplacer le socialisme?
Non, pas du tout. Nous avons donné notre définition... de la définition de nos principes économiques. Nous pensons que la liberté d'entreprendre est un des moteurs de l'économie et de la création des richesses, et qu'on ne peut partager que les richesses que l'on a créées. Et cela n'implique pas pour autant que nous jetions par-dessus bord toutes les mesures de préférence nationale qui fondent même notre philosophie politique. Nous pensons que la technique de production doit être la plus performante possible dans la mesure où elle ne met pas en cause précisément l'essentiel. Et il est évident que nous sommes bien conscients d'être dans une économie mondiale de concurrence, mais nous disons que si nous nous abandonnons aux théories du libéralisme international, nous allons nous ruiner notre économie nationale, et nous avons le devoir de la protéger. Autrement dit, c'est toujours un compromis, l'action économique, un compromis entre l'efficacité et la justice et la sécurité. Et il n'y a pas de solution miracle dans les extrêmes économiques. Nous pensons que l'ouverture des frontières, la suppression des préférences européennes, nationales ou familiales, va entraîner la ruine de nos sociétés. Et la disparition, en tous les cas, la mise en esclavage de nos peuples. Mais pour autant, nous ne sommes pas prêts à mettre en place un système dirigiste où les mécanismes de généraux de production et d'échange seraient tenus complètement entre les mains d'un État et des fonctionnaires de cet État.
Et comment voyez-vous l'avenir des demandeurs d'emploi? Quelles mesures peut-on prendre pour conduire à la baisse ce taux de chômage dont sont victimes tant de jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail avec le bac?
Alors il y a d'abord l'immigration, si on veut bien, si on admet les chiffres qui ont été avancés tant par M. Barrot, qui sait ce dont il parle, puisqu'il est l'ancien président récemment remercié pour avoir écrit un livre jugé peu complaisant à l'égard de l'islam. Monsieur Barrot dirigeait l'Institut national d'études démographiques. Lui, il évalue le nombre des immigrés entrés en France depuis 1948 à 14 millions. Tandis que Monsieur Motin, le conseiller d'État Motin, lui, l'évalue à 11 millions. Bon. Ces deux chiffres sont au-dessus de 10 millions. Il y a, dans notre pays, des millions d'étrangers. On a laissé entrer, on continue, et il va en entrer beaucoup plus encore, des millions d'étrangers qui, évidemment, occupent des postes de travail qui pourraient être occupés par des Français. Alors, la première mesure consiste à réduire le nombre des immigrés dans notre pays et leur coût social qui est extrêmement lourd et qui entraîne celui du chômage qui est lui-même extrêmement lourd, entraînant des impôts et des charges supplémentaires et par conséquent un manque de compétitivité de notre économie. Il faut que notre économie redevienne compétitive, il faut que les investisseurs pensent retirer un certain nombre d'avantages de leur prise de risque. Et il faut pour cela que ils en soient récompensés. Il faut que le mérite, il faut que l'imagination, il faut que le travail, il faut que le courage soient récompensés de façon différentielle. Si l'on aboutit au système socialiste ou libéral-socialiste qui consiste à payer tout le monde de la même manière, à l'exception bien sûr des présentateurs de la télévision, n'est-ce pas, et des vedettes de football, eh bien, on aboutira au fait suivant, c'est que les gens seront découragés de travailler, le niveau général de la production s'abaissera, et ce qu'il y aura à partager entre nous sera de plus en plus médiocre et il n'y aura que la misère à partager.
Alors justement, Jean-Marie Le Pen, il vous était posé une question tout à l'heure sur la position du Front National en ce qui concerne le choix entre un certain dirigisme ou un certain libéralisme. Et faut-il être dirigiste ou libéral sauvage? Et là, il y a un sujet d'actualité qui est la décision prise par Peugeot de licencier 2600 ouvriers des usines de Sochaux. Or, Peugeot, qui va licencier 2600 ouvriers français de ses usines, produit des voitures en Espagne. Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de démentiel qui exigerait une prise de position de la puissance publique?
Oui, mais n'est-ce pas la philosophie générale des gouvernements qui se sont succédés, c'est celle du libéralisme à outrance, y compris les socialistes. Bon, dans ces conditions, et à partir du moment où on ouvre les frontières à l'intérieur de l'Europe et les frontières de l'Europe elle-même, il est évident que les industriels, eux, qui n'ont pas leur mission, la mission des industriels, n'est pas de défendre l'intérêt national, c'est de défendre l'intérêt de leur entreprise. C'est aux hommes politiques de prendre les mesures nécessaires à la défense de l'intérêt national et de dire aux industriels, voilà quelles sont les lois que vous devrez respecter parce qu'elles tiennent l'intérêt général. À vous de vous débrouiller pour faire survivre vos entreprises et les garder compétitives sous ces, comment dirais-je, avec ces handicaps de liberté.
Mais là, on est au cœur de la question européenne, parce qu'il est évident que si l'État en France, la puissance publique en France, dit aux entreprises, la Cour européenne, ou non pas la Cour, mais l'administration européenne va dire, la Commission européenne
Non, mais bien évident qu'en acceptant l'acte unique et le traité de Maastricht, nous avons renoncé à toute possibilité de moduler une telle situation.
Alors, une auditrice
nous sommes aujourd'hui engagés dans un processus dans lequel les gouvernants français n'auront plus de possibilité d'action, et c'est peut-être d'ailleurs ce qu'ils souhaitaient. Ça leur servira en même temps d'alibi.
Ça, d'alibi. Une auditrice nous dit, pourquoi Jean-Marie Le Pen a-t-il voté l'acte unique ?
Je n'ai pas voté.
C'est un malentendu.
Non, pas du tout. Nous en sommes abstenus.
C'est ça, c'est abstention, il me semble bien. Oui, alors on nous cite un autre exemple. C'est un auditeur qui vous présente ses voeux et qui donne comme autre exemple de l'abandon de leurs responsabilités, ou enfin, en tout cas, de l'attitude irresponsable des entreprises françaises, le cas d'Alain Gomez, dont Thomson, le directeur, le grand patron de Thomson, qui vient de lâcher tout l'électroménager français, qui est pratiquement la seule branche bénéficiaire, pour autant que je sache, de son entreprise, à l'italien Zanussi. Et là encore, on a l'impression qu'il y a une espèce de véritable complot contre la richesse nationale, contre le tissu industriel et productif national, qui consiste à le déchirer, à le réduire à néant.
Il est bien évident que si on ne met pas la nation au-dessus de l'intérêt individuel, si on ne met pas l'intérêt national au-dessus de l'intérêt individuel, chacun essaie de défendre son intérêt individuel. C'est la fin des sociétés, c'est la fin des États, c'est la fin des nations. C'est le monde dont qu'avait décrit Orwell et qui est en train de se réaliser sous nos yeux.
Victor, il y a d'autres questions ? Parce que moi, j'ai une précision à apporter. C'est une auditrice qui dit, vous n'avez pas bien cité Jean Ferré, lundi. Il a textuellement souhaité que toute la droite, depuis l'aile gauche des centristes jusqu'à l'aile droite du Front National, devienne intelligente. Voilà. Donc, on ne peut que adhérer à ce vœu. Je crois que nous...
Intelligéré, c'est relié entre eux. On ne saurait que souhaiter cela.
Là, un auditeur confirme que les entreprises françaises sont appelées vers Berlin, vers l'Est, car les charges sont moins fortes qu'en France, et même exonérées pendant 6 ans, annonce-t-on. Qu'en pensez-vous ?
Oui, bien sûr. Mais vous savez, le vrai problème de la compétitivité des entreprises, c'est celui de leurs coûts salariaux, de leurs charges. Et dans un pays comme le nôtre, qui est un pays socialiste, que ce soit d'ailleurs sous Giscard d'Estaing, Chirac ou Barre, il était de structure socialiste, avec un taux de prélèvement obligatoire considérable qui a plus augmenté sous Giscard que sous quiconque. Bon, il faut le savoir et le dire. Dans ces conditions, tant que nous ne nous serons pas réadaptés et que nous aurons adopté des niveaux comparables à ceux de nos concurrents, nous serons battus sur tous les terrains. Il faut bien le savoir. Voilà. Nous ne pourrons pas lutter contre les Allemands des concurrents européens qui ont 5 ou 10 points de moins de taux de prélèvement que nous, et encore moins contre les Américains et contre les Japonais, sans parler bien sûr des pays dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire des dragons d'Asie. Et il est certain que quand on voit rappeler au gouvernement Monsieur Tapie qui ferme ses entreprises en France et qui annonce qu'à titre de compensation il a racheté une entreprise dans le sud-est asiatique pour assurer la même production, eh bien, il y a quoi se frapper la tête contre les murs. Alors, la parole est aux électeurs, en quelque sorte. Ils n'ont que cette possibilité-là d'exprimer leur point de vue. Encore faudrait-il qu'ils le fassent.
Un auditeur nous dit, vous préconisez le retour des immigrés pour libérer des emplois en faveur des chômeurs français. Mais est-ce que vous ne prenez pas le risque par là même de diminuer le nombre des consommateurs?
Bien sûr, mais ce sont des consommateurs qui consomment avec de l'argent qu'ils ne gagnent pas. Alors, il faut tout de même être sérieux. Il faut savoir quels sont les prix. Le prix du chômage dans notre pays, le prix d'une création de postes de travail, et il faut savoir que quand il est occupé par un étranger, il l'est forcément au détriment d'un national. Alors, dans le cadre d'une politique d'ouverture des frontières, en effet, on ne peut strictement rien faire. Il n'y a aucune solution à cela. Et on ne peut le faire que dans un cadre national, c'est dans le cadre d'une préférence nationale, dans le cadre d'un droit qu'auraient les citoyens français d'avoir une priorité d'emploi, en quelque sorte. Et pour cela, encore faut-il contrôler le flux migratoire, car déjà, mais encore beaucoup plus dans l'avenir, des gens viendront de pays misérables, prêts à accepter le dixième du salaire d'un travailleur français pour survivre. Ce jour-là, le travailleur français n'en aura pas jusqu'au jour où les charges seront telles qu'on ne pourra plus fournir les allocations chômage, que les chômeurs par millions, ils sont déjà 5 millions réels. Quand ils seront 10 millions, eh bien le pays sera ruiné, la poule aux œufs d'or sera morte, il n'y aura plus d'eux du tout.
Alors on va parler des élections, puisque vous venez de dire qu'effectivement la solution est entre les mains des électeurs. Mais avant, je voudrais quand même donner la parole au général de Groignac, qui à propos de la petite anecdote que je racontais sur le passe-moi la rhubarbe, je te le passerai le séné d'El Kabach du Hamel, dit, ça me rappelle ce qu'on dit dans l'armée de l'air, je te pousse, tu me tires. Et c'est tout à fait ça. Voilà, alors, quelques questions sur les élections. Je les pose dans l'ordre où elles me viennent. Monsieur Le Pen se présentera-t-il aux élections législatives?
Oui, absolument. Et absolument, dans la troisième circonscription de Nice. Alors, c'est celle d'ailleurs où le Front National a fait le meilleur résultat de la région PACA.
Et la question annexe, qui est amusante, je ne sais pas si c'est de l'humour ou si c'est sérieux, c'est sur quelle radio et télévision ferez-vous campagne? Comme si vous aviez le choix.
Bah écoutez, sur Radio Courtoisie.
Et j'entendais dire ce matin
qui n'est pas entendu à Nice.
Vous alliez être invité à l'heure de vérité.
Ben il y en a des questions encore qu'on vient de m'annoncer que le jour qui avait été retenu était changé. Et qu'au lieu de parler à fin février, on ne m'invitait plus qu'à parler fin janvier.
Ah, je croyais que c'était après
J'espère
les élections.
Qu'on ne va pas m'inviter à parler fin décembre 92.
Ou fin mars.
Mais enfin, écoutez, ne boudons pas, ne boudons pas le petit, la petite lueur qui se manifeste. Et, l'heure de vérité, je n'y ai pas été invité depuis, me semble-t-il, 18 mois.
Alors, à ce propos, une auditrice dit, Jean-Marie Le Pen se plaint à juste titre des médias, mais comment a-t-il pu accepter la récente émission de télévision où on le montrait trop sous l'angle de sa vie privée? Alors, c'est une question qu'on a...
C'est parce que on m'a vu me raser et faire de la culture physique. Oui, enfin, c'est quand même pas un secret d'État que je me rase le matin et que je suis encore capable de faire 25 pompes. C'est une de mes fiertés.
Oui, ça, je ne
sais pas si simple que ça.
Là, vous m'en mettez 24 dans la vue.
Je vais vous dire la vérité. Ces malhonnêtes professionnels sont venus me dire avec le sourire de Basile et le regard de Tartuffe qu'ils allaient faire une émission sur les 20 ans du Front National. Alors, j'y ai prêté mon concours. Hein. Voilà, ils m'ont dit on voudrait montrer l'homme qui n'est pas seulement l'orateur de meeting, mais aussi l'homme dans son foyer, dans sa famille, dans la simplicité, en quelque sorte, de sa vie. Et moi, je n'ai pas le sentiment d'être un homme tellement exceptionnel que je doive, comme le conseiller général de Gaulle, m'entourer d'un voile de mystère. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme simple. Bon, alors peut-être ai-je eu tort, parce que ça on ne le sait qu'après d'ailleurs. Et je ne suis sans doute pas prêt de m'y faire reprendre, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Mais je n'ai rien fait dans ce domaine qui soit déshonorant ou humiliant. Bon, mon intimité s'est en effet limitée à ma salle de bain, un excès de confiance fait à des professionnels qui ne la méritaient pas.
C'est eux qui sont déshonorés.
Puisqu'on parle d'intimité, une auditrice pose une question qui est très personnelle. Est-ce que votre façon de penser, Jean-Marie Le Pen, a changé depuis votre mariage?
Je crois pas du tout.
Non. Ça, non, c'est une question intéressante, ça aurait pu produire.
Non, pas du tout. Non, bah, il est certain que ma femme joue certainement un rôle bénéfique. Elle calme quelquefois mon ire. Elle introduit une dimension affective et tendre. Elle essaie de me protéger aussi. Elle veille peut-être plus attentivement à ma que ne le ferait un célibataire à l'élégance de ma tenue, à ma présentation, à ces choses-là. Mais ça, c'est le rôle que s'attribue et que remplissent très bien nos femmes d'habitude.
Alors, l'ami Pierre Seymour téléphone pour faire remarquer qu'on ne vous a pas vu au bébé de show de fin d'année. Alors, vous voyez, quand même, la censure a quelque chose de bon, c'est que vous avez disparu de cette foire d'empoigne.
Oui, oui, mais je pense que la consigne a été donnée à tous les niveaux. Je vous dis, je ne sais pas si je vous ai raconté qu'un jour j'ai eu la surprise d'entendre dans une émission et dans la bouche d'un homme pour lequel j'avais une certaine considération relativement à ses compétences musicales, j'ai entendu un jour, c'était d'ailleurs dans le cours de la campagne des élections régionales, quelqu'un qui est passé, je crois, de Chopin à Beethoven en plaçant une phrase contre Le Pen. C'est parce que Le Pen venait faire entre Chopin et Beethoven. Mais ça voulait dire que ce monsieur venait d'accomplir la petite obligation qu'on avait exigée de lui. Voilà, il faut dire une phrase contre Le Pen. Il n'y a pas un chanteur, aussi, il y a quelques-uns qui ont résisté, ou un acteur surtout médiocre, qui ne soit obligé d'apporter son petit coup de pied de l'âne, n'est-ce pas ?
Alain Sanders relève dans Présent d'aujourd'hui qu'il y a un vague restaurateur breton d'ailleurs, enfin je crois que c'est breton, c'est d'un endroit fort éloigné de notre capitale, qui ayant eu l'honneur d'un petit articulé dans un petit journalicule, dit j'aimerais pas que Le Pen vienne déjeuner chez moi.
Mais qu'il soit rassuré.
Donc, ce côté-là, il peut être tranquille.
Mais en vrai, c'est amusant parce que ça ne.
Non, mais ça s'appelle. Ça s'appelle la caresse aux puissants. Ça. C'est tous les gens qui sont lâches. Pense que en émettant une petite bassesse à mon égard ou à l'égard du Front National, ils vont s'acquérir les bonnes grâces de ceux qui font les articles dans la presse, qui distribuent la publicité, qui attirent la clientèle. De cette ignominie de comportement est banale dans l'histoire des hommes, elle ne doit pas nous étonner, même de la part d'un restaurateur breton.
Mais que faire pour que le peuple français n'aille pas à un suicide mortel ?
Voilà, on revient aux élections.
Oui.
Il reste 3 minutes pour répondre à cette question une vaste question.
D'abord, assumer sa responsabilité de citoyen. C'est pas si simple. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas, nous sommes dans une structure démocratique, ou en tous les cas apparemment démocratique. Celle-ci implique l'expression du choix des citoyens à un moment donné lors des élections. Pour se faire leur conviction, les citoyens doivent réfléchir, étudier, apprendre, et pas seulement se laisser guider comme des moutons. Ils doivent se poser des questions, ils doivent s'efforcer. Car il n'y a pas, dans ce domaine-là, comme dans tous les autres, il n'y a de résultats respectables que ceux qui sont le fruit d'un effort. Tout abandon, tout relâchement ne peut conduire qu'à une négation de ses droits. Et par conséquent, le droit des citoyens implique lui aussi des devoirs. Et en particulier, le devoir de s'informer. Et quand les informateurs ne font pas leur devoir, c'est aux citoyens à rechercher inlassablement une information loyale et droite. Alors, l'application de son bon sens et de son esprit critique à un certain nombre de faits et de données doit conduire ceci à des comportements. On ne peut pas inlassablement se plaindre du fait que la situation n'est pas bonne et qu'elle s'aggrave, du fait que la drogue, le sida, la dissolution de l'esprit national, l'effondrement de la défense, la ruine de l'éducation nationale n'auraient pas de cause. Ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas le Front National qui est responsable de cette situation. Le Front National la dénonce. Peut-être peut-on dire qu'il ne ferait pas mieux que les autres. Mais ce dont on peut déjà être sûr, c'est que les autres ne sont pas dignes de reprendre les rênes. Alors, moi je dis au peuple français, faites l'essai.
Comme disait ma grand-mère, tu peux pas dire que t'aimes pas ça, t'en as jamais goûté.
Voilà, essayons d'appliquer à notre vie publique, économique et sociale, les règles qui, jusqu'ici, ont assuré, tant bien que mal, la survie de notre pays comme nation et comme peuple. Bon, puisque vous êtes tous ou presque tous d'accord pour reconnaître que, il suffit d'ailleurs d'observer que les paramètres concrets le démontrent, que dans tous les domaines, nous descendons la pente. Il n'y a pas un seul indicateur de l'activité nationale, dans quelque domaine que ce soit, qui soit positif. Tous sont négatifs. Par conséquent, il faut changer les choses. Alors, vous n'allez pas remplacer Mitterrand par Chirac, puisque cette expérience a déjà été tentée au moins 3 fois, pour un résultat nul. D'ailleurs, ce qui est à changer, c'est pas de remplacer Mitterrand par Le Pen seulement, c'est de remplacer la mentalité des Français par une autre mentalité.
Alors Jean-Marie Le Pen, on va y revenir, si vous voulez, dans 2 minutes. On fait le traditionnel changement de cassette, et puis on vous redonne la parole. Enfin, toutes les choses sont, toutes les bases sont parfaitement connues par tout le monde. Et un auditeur nous rappelle à l'ordre en disant, écoutez, moi, vous dites tout le temps que le découpage et le mode de scrutin sont iniques. Mais j'aimerais bien comprendre en quoi ils sont iniques, parce que ce que je comprends, c'est le résultat, c'est que je vois que les socialistes et la gauche gouvernent alors qu'ils sont une infime partie de la minorité. Mais je voudrais bien savoir comment ça fonctionne. Alors, est-ce que vous pouvez faire un petit cours de...
Oui, absolument, mais je voudrais d'ailleurs souligner là une contradiction des éditorialistes et donneurs de leçons. Récemment, il y a eu des élections à Taïwan, n'est-ce pas, qui est l'ancienne île de Formose, la Chine nationaliste. Et tous les éditorialistes ont souligné ce qu'ils ont appelé l'échec du Kuomintang. Le Kuomintang, c'est le parti nationaliste chinois de Chiang Kai-shek, dont beaucoup d'ailleurs de nos compatriotes ignorent sans doute qu'il était catholique, oui. N'est-ce pas? Bon, Chiang Kai-shek a été le chef de la Chine nationaliste, et après la guerre, s'est réfugié à Formose, dans l'île de Formose, dont il a fait un pays prospère. Bon, et il y a eu des élections. Et le Kuomintang n'a obtenu que 53% des voix et 65% des élus. Toute la presse occidentale a dit c'est une défaite, c'est un recul, etc.
Cinglant.
Ignorant sans doute, bah oui, il disait bien que le Front National avait subi un échec en passant de 9,5 à 14, n'est-ce pas, aux dernières élections. Eh bien, j'ai expliqué à Taipei, j'ai dit mais écoutez, ne vous désolez pas aux gens du Kuomintang, parce que en France, on gouverne très bien, non seulement avec une voix de majorité, mais même avec une minorité. C'est ce que vient de faire le Parti Socialiste pendant 5 ans. Il gouverne avec une minorité. Ah, ils en étaient abasourdis.
Oui, mais c'est pas des démocrates.
C'est pas. Alors, ils étaient abasourdis. Alors, le système. Le système majoritaire, n'est-ce pas, uninominal, à 2 tours, qui est le système que M. Chirac a fait voter dès son retour au pouvoir en 1986. S'oppose bien sûr au système proportionnel qui donne un nombre de députés par département proportionnel au nombre de voix obtenues et assure ainsi une représentation de tous les courants politiques au Parlement, ce qui me paraît être une fonction fondamentale d'une république représentative. Mais on fait à ce système le procès que en diluant un peu le nombre des partis, il rend difficile la constitution des majorités. Et on attribue au mode de scrutin une nouvelle fonction, donner une majorité au gouvernement. Je crois que là on se trompe, mais ce système a un grave inconvénient, c'est qu'il permet à un parti minoritaire de gouverner. Ça a été le cas avec le Parti Socialiste depuis 5 ans. Et il peut être particulièrement vicieux quand les découpages de circonscriptions rendus nécessaires par le fait qu'il faut à peu près avoir 100 000 habitants, un député par 100 000 habitants. Alors, l'habileté des stratèges politiques, et dans ce domaine-là, M. Pasqua est un maître charcutier, n'est-ce pas, c'est de regrouper dans les circonscriptions adverses un nombre très important pour constituer une majorité. Il n'y a besoin que de 51% pour faire passer un député. Eh bien, on met 80% des gens de même opinion dans la même circonscription. Voyez-vous? Alors, l'astuce a consisté en 86 à aboutir au résultat qu'avec le même nombre de voix, le Parti communiste avait 26 députés et le Front National un seul. Voyez-vous? Et ça donnait à une minorité en voix une majorité relative, ce qu'était la majorité RPR-UDF renforcée, car il n'y avait pas de majorité RPR-UDF, mais renforcée d'un certain nombre de non-inscrits. Ce qu'il faut bien comprendre dans le fonctionnement des institutions, c'est que le mode de scrutin majoritaire a pour conséquence de mobiliser le député à sa réélection pendant 5 ans. On dit il fait du terrain. Alors, comme il est nécessaire qu'il soit pour lui d'être réélu, car il a généralement abandonné sa propre profession libérale ou ses propres affaires, sauf quand il est fonctionnaire, et sûr de retrouver sa place. C'est la raison pour laquelle il y a tant de fonctionnaires au Parlement français. C'est parce que ce sont les seuls qui ont un véritable parachute social et qui sont sûrs de retrouver une situation s'ils sont battus aux élections. Alors ce député va passer son temps, ses 5 ans, au lieu d'être au Parlement à voter et étudier les lois et à surveiller le gouvernement, c'est son rôle, eh bien il va être dans sa circonscription à serrer suffisamment de mains pour pouvoir être réélu dans 5 ans. Notre excellent ami Monsieur Frédéric Dupont recommençait sa campagne. Il s'accordait un jour de congé tous les 5 ans, le lendemain de sa réélection. Et le mardi suivant, il repartait dans les rues du 7e arrondissement, serrer les mains des commerçants pour leur rappeler quel rôle il avait joué dans la défense, ce qui n'était pas faux d'ailleurs, dans la défense de leurs intérêts professionnels. Alors, le système actuel est un système qui est négatif dans la mesure où il ne permet pas aux citoyens de s'exprimer. Il est impossible d'admettre que dans une démocratie, 4,5 millions d'électeurs du Front National puissent être tenus à l'écart de toute représentation parlementaire, à l'exception d'un député au Parlement national et 10 députés au Parlement européen. Et il est évident qu'il faut redonner la parole au peuple. Il faut que le peuple s'exprime. Il faut qu'il dise ce qu'il souhaite et ce qu'il veut. Alors que pour l'instant, cette démocratie est confisquée par un établissement, une oligarchie, généralement d'ailleurs composé très très majoritairement de fonctionnaires.
On en a eu une preuve ce matin, toujours sur la radio que j'écoutais, puisque j'ai entendu Monsieur Mazot, qui est vice-président de l'Assemblée nationale, si je ne me trompe pas, et qui fait partie de l'actuelle opposition. C'est-à-dire qu'il parlait déjà, lui, de la majorité, en disant « nous sommes la majorité ». C'est possible, mais enfin ça reste à démontrer au mois de mars. Et alors il a eu un propos extraordinaire qui recoupe d'ailleurs une confidence qui a été faite il y a quelques semaines par un des spécialistes du charcutage électoral du RPR, un de mes amis. Ce spécialiste du charcutage électoral disait: nous allons présenter, alors j'en demande par avance pardon à celui qui sera la victime de cette affaire, mais enfin voilà exactement ce que disait ce personnage. J'ai dit l'UPF présentera un imbécile contre Chevènement, car nous avons failli battre Chevènement la dernière fois, il faudrait surtout pas que ça arrive, il faut absolument que Chevènement soit à l'Assemblée nationale, disait ce spécialiste des charcutages électoraux du RPR, il faut absolument que Chevènement soit élu, et il faut absolument que nous ayons une victoire commode, mais pas totale, car ce serait une catastrophe. Or, ce matin, Mazot disait, il faut que nous gagnions les élections, mais pas de trop, parce que ça poserait d'autres problèmes. Point de suspension. Et l'intervieweur s'est d'ailleurs bien gardé de lui dire, mais quel problème ça poserait au fond?
Mais il faut sauver non seulement la dignité, mais les places des plus influents de leurs adversaires. Parce que si leurs adversaires avaient le sentiment d'être écartés à jamais de l'aspiration au pouvoir, alors ils pourraient entretenir sur les arrières du pouvoir ou sur ses flancs une agitation de type politique ou social. Or, il faut sauver les chefs, y compris les chefs adverses. Et il y a, est-ce que c'est par le biais de la maçonnerie, est-ce que c'est par d'autres biais, il y a une connivence profonde entre les élites, entre guillemets, politiciennes de gauche et de droite.
C'est ce qu'ils appellent le pacte républicain.
C'est le pacte républicain, la profonde connivence qui alimente de surcroît la haine du Front National, élément novateur et irréductible. Ah, si nous étions les Verts, achetables en telle ou telle circonstance pour constituer des majorités dans l'espérance d'un portefeuille, là, il n'y a pas de problème. Mais comme nous sommes irréductibles sur le plan de nos objectifs politiques, eh bien, nous devons, rappelez-vous la phrase de Le Sourne, directeur du journal qui passe pour être l'Osservatore Romano de la République, n'est-ce pas, la Bible républicaine. Et si les méthodes démocratiques ne suffisent pas pour stopper la montée du Front National, il faudra bien employer les autres.
Voilà. Voilà. C'est ça, c'est Le Sourne, directeur du Monde, du journal de quotidien Le Monde, qui a dit cette phrase. Je demande aux auditeurs il l'écrit. Je demande aux auditeurs de la méditer, de la déguster et d'en tirer toutes les conclusions qu'on peut en tirer. Si les méthodes démocratiques ne suffisent pas à réduire le Front National, il faudra recourir à d'autres méthodes.
D'ailleurs, Monsieur Birnbaum, qui est un des exégètes du Front National, n'est-ce pas, a écrit: avec le Front National, on n'est pas obligé, on n'est pas tenu de respecter les règles.
Voilà. Ouais. Mais les règles, M. Mitterrand a l'intention de les changer. Parce que moi, j'ai entendu ce matin, et un auditeur confirme, que M. Mitterrand s'apprêterait à faire un coup au mois de février. Il présenterait la réforme constitutionnelle préconisée par la fameuse Commission des Sages, et cette réforme constitutionnelle comprendrait une réforme de la loi électorale. On ne reviendrait pas à la proportionnelle intégrale, mais, vous savez, on aurait un système...
On instillerait un peu de proportionnel,
et je ne sais pas qui était interviewé, mais il disait, mais vous savez, il en est capable.
Moi, évidemment.
Alors,
qu'il en est capable,
quand même rêver,
le bougre.
Cet homme nous étonnera toujours.
Oui, justement, il finit par ne plus nous étonner.
Mais, je crois que le pacte est trop sérieusement contrôlé par les puissances occultes pour laisser le président se livrer à ce type de fantaisie.
Il est libre jusqu'à la gerbe.
Il est libre jusqu'à la gerbe, oui.
Ouais. Enfin, il l'a quand même mise.
D'accord, mais pas plus. Tiens, puisqu'on parle de lui, on pourrait peut-être parler de ses vœux. Vous ne les avez pas entendus.
Notez que il nous a bien désinformés, si j'ai bien compris, puisque il est guéri de son cancer. Ce cancer n'aura duré en quelque sorte qu'une élection,
Qu'une élection. Je ne sais pas s'il est guéri.
Monsieur Mitterrand allait bien, mais que le cancer n'allait pas bien, lui.
Mais donc c'est bien, si le cancer va pas bien, c'est que Mitterrand va bien. Voilà. C'est quand le cancer va bien que ça va mal. Enfin, il me semble,
Une fois de plus, quand j'avais dénoncé le caractère opérationnel électoral de la prostate, je ne m'étais pas trompé.
Oui, mais une fois de plus, vous aviez joué le rôle du chien dans le jeu de quilles, et ça, ça ne plaît pas. Justement,
même à certains de nos partisans.
On va parler maintenant, si vous le voulez, des vœux de Mitterrand, mais vous en avez été dispensé, vous ne les avez pas.
Oui, tout à fait.
Alors, il y a quand même une chose qui a été très très frappante, c'est que, il s'est félicité des acquis sociaux de ses 12 ans de pouvoir. Et alors, si ça n'avait pas été tragique, on aurait rigolé, parce que dans le journal qui avait précédé immédiatement ou qui a suivi juste après, je ne sais plus exactement, il y avait toute une série de reportages qui étaient consacrés au fait qu'aujourd'hui, en France, en 1992, en France, et pas en Somalie, des gens meurent dans la rue. On ramasse le matin des cadavres de gens morts de faim et de froid. Si vous en faisiez partie, vous trouveriez ça normal, parce que Philippe me dit, on fait le geste en disant, six morts, après tout, il n'y a pas de quoi discuter. C'est pas bien grave, c'est déjà pas mal quand même, six morts. Quel sentiment éprouvez-vous devant cette attitude? Et surtout, vous êtes un responsable politique, vous êtes donc, toute proportion gardée, un peu dans la situation d'un Mitterrand ou d'un homme d'État qui dirige les autres et qui est en quelque sorte séparé de la base, qui est séparé du peuple. Parce que je prends un exemple, un auditeur téléphone en disant, si Monsieur Le Pen voulait vraiment faire un coup médiatique et se rendre sympathique, il irait servir dans les rues de Paris des repas aux plus pauvres. Bon, c'est une chose qui n'est pas possible. C'est une impossibilité. Durand a déjà du mal à vous empêcher.
Et puis en plus, je trouve que l'exploitation du sentiment de la charité au service des intérêts politiciens telle que...
La kouchnerisation du pauvre.
La kouchnerisation du pauvre, la somalisation du Bush, ou la bushisation de la Somalie, tout ça, moi, me provoque une répulsion de ma part. Je trouve ça choquant. Alors, ce que les dirigeants d'État et les dirigeants politiques doivent s'efforcer d'apporter à leur peuple, c'est la liberté qui ne va pas sans responsabilité, c'est la sécurité qui ne va pas sans contrainte et sans sanction, ni sans morale, c'est le travail, c'est la pérennité de la nation par la défense des institutions familiales, c'est l'attention portée aux problèmes démographiques. Je me défie particulièrement de tous les hommes politiques qui veulent établir le bonheur des hommes. Et je crois que la construction du bonheur est le fait de chaque responsable, chaque individu, et que l'État n'a pas d'autre fonction que d'établir la défense du minimum civique, en quelque sorte. Et que se vanter des acquis sociaux, quand la politique sociale du gouvernement, au bout de 12 ans, aboutit au chiffre de 5 millions de chômeurs, c'est se moquer du monde. C'est exactement comme une mère de famille qui se féliciterait d'avoir répondu à l'attente de bonbons de son enfant pendant 15 ans, un jour où le dentiste lui dirait, ben, écoutez, votre enfant n'a plus une seule dent de saine, il faut toutes les enlever, qui dirait, ben oui, mais enfin, pendant 15 ans, quand même, je lui ai procuré beaucoup de bonheur parce qu'il aimait beaucoup les bonbons. Eh bien, c'est exactement l'attitude du chef du gouvernement. Mais alors, les acquis sociaux, c'est quoi? La retraite, mais il n'est pas sûr que les retraités pourront continuer à la toucher. Et que la situation économique du pays, ruinée par les socialistes, le permette. Les chômeurs, l'insécurité non seulement dans nos banlieues, la ruine des agriculteurs, l'analphabétisation de notre jeunesse, et ce sont ça les acquis sociaux du socialisme.
Alors justement, est-ce que vous croyez que quand Mitterrand célèbre les acquis sociaux du socialisme dans son discours de Nouvel An, dans une période vraiment mal choisie, est-ce qu'il est totalement inconscient? Est-ce que c'est de la provocation? Est-ce qu'il prend les Français pour des imbéciles? Quel est le mécanisme?
Oui, moi je crois qu'il dit la messe, et il emploie un certain nombre de formules lénifiantes qui sont destinées à rassurer. Et c'est la méthode Coué, mais elle marche sur des gens qui sont désinformés. Si personne n'est là, comme je le fis au moment de la prostate, pour relever, pour dire que le roi est nu, fût-ce au scandale de la foule, n'est-ce pas, dans le premier temps, quand l'enfant dit « mais le roi est nu, tais-toi, lui dit-on, tu n'as pas honte de dire ça du roi ?» jusqu'au moment où l'un des assistants dit « mais il a raison, le roi est nu !» Eh bien, ce qui m'avait choqué quand j'avais dit, mais il est évident, connaissant ce que je savais par les spécialistes de l'évolution pathologique de la maladie de la prostate, et ce que je savais aussi de l'usage que fait le prince de tout ce qui peut être utile à ses desseins, n'est-ce pas ? Me conduisait à penser qu'il y avait là une conjonction qui mettant l'opération de la prostate à 4 jours d'une élection douteuse l'avait fait à intégrer en quelque sorte dans son scénario. Alors que M. Kouchner en ait profité pour pérorer que Mme Veil ait tiré une flèche venimeuse et que M. Krivine soit parti avec M. Lajoigny dans un geste de protestation ne m'a pas choqué. Ainsi que M. Fabius, ce sont là des belles consciences que nous connaissons bien. Mais ce qui m'a, non pas surpris, ni même étonné, c'est de voir que sur l'écran de contrôle où Monsieur Pasqua et Monsieur Devilliers apparaissaient dans ce débat, eux aussi se sont crus obligés de se lever de leur chaise en signe de protestation et de disparaître. Voilà. Alors, ce n'est pas que l'iniquité soit l'iniquité qui me choque. C'est que Tartuffe la recouvre de son manteau de vertu, ou plutôt de fausse vertu.
Toujours à propos de ces acquis sociaux, une auditrice nous fait remarquer une chose qui est quand même, c'est étonnant que personne n'ait dit ça. Moi, je suis même étonné de ne pas y avoir pensé. Personne n'a fait la comparaison entre le raffut actuel qui est fait autour des 100 domiciles fixes pour lesquels on ouvre une salle à la Sorbonne, qu'on propose d'installer dans un gymnase de lycée, qu'on héberge brièvement dans une station de métro désaffectée. Mais quand il s'est agi de loger, de reloger des milliers de, au moins 1500 Maliens qui se trouvaient à la porte de Vincennes, qu'est-ce qu'on a fait? On a réquisitionné des appartements, on a pris des logécos qu'on a aménagés, on les a installés, et on leur a même offert des taxis pour aller travailler, parce qu'on les avait relogés un peu loin de leur lieu de travail, ce qui est carrément inhumain et raciste, il faut bien reconnaître. Alors au fond,
c'est de la comédie caritative, ça. C'est un gag. C'est comme le fait de ramasser du riz dans les écoles, dans des boîtes en carton, pour sortir le riz des boîtes en carton, pour le mettre dans des sacs, pour l'amener en Somalie. Ce qui fait que le riz qu'on amène en Somalie coûte à peu près 30 fois le prix qu'il aurait coûté si on l'avait acheté sur le marché international. Simplement et sans esbrouf. Mais nous sommes dans la civilisation de l'esbrouf. N'est-ce pas? Et le problème n'est pas de soulager les misères, c'est de faire semblant de le faire, et d'apparaître comme celui qui le fait, et de se servir de l'argent des contribuables pour s'attribuer le mérite de l'avoir fait. Alors ça piège un certain nombre de gogos. La preuve, c'est que quelqu'un voudrait me voir distribuer de la soupe chaude dans les rues. Ceci est hors de proportion, cher auditeur, avec l'étendue du problème et la gravité de ce qui menace les Français.
Et moi, ce qui me frappe vraiment de plus en plus, d'une façon de plus en plus douloureuse, je dirais, c'est la gogoterie de nos concitoyens en face de... Quand, effectivement, cette affaire du riz dans les écoles a été lancée, il ne s'est trouvé que des marginaux comme Sanders et puis moi et quelques autres pour dire, mais on se fout du monde. C'est scandaleux, d'abord parce que ça rapporte des taxes énormes à l'État, puisque le riz est un produit énormément taxé. Ensuite, ça rapporte des bénéfices énormes aux grosses boîtes qui tiennent les supermarchés. Et finalement, ça coûte une fortune. Alors qu'on aurait demandé, effectivement, aux enfants d'apporter l'équivalent en monnaie du prix d'un paquet de riz, on aurait acheté sur le marché international, on aurait pu nourrir, si tant est que ce soit d'ailleurs une nécessité vitale et politiquement intelligente, on aurait pu nourrir les Somaliens 10 fois plus longtemps. Oui, alors maintenant, la question se pose de savoir aussi s'il faut intervenir sous cette forme en Somalie, parce qu'on voit, grâce aux images qui sont diffusées en ce moment de plus en plus, du fait de la présence de Restaurer l'Espoir, on voit bien que le mal ne vient pas d'une espèce de famine qui serait tombée du ciel sur ce pauvre pays, mais de l'exploitation de malheureux Somaliens par des ordures somaliennes qui sont gras à l'art et luisants et qui se baladent avec des mitrailleuses.
Ça me paraît être la conséquence naturelle de l'indépendance. Ce sont les risques de l'indépendance. Et M. Bush ne fait rien d'autre que de faire ce qu'ont fait les colonisateurs que pourtant son pays a conspué en d'autres temps. Hein? Intervenir pour faire cesser la misère et l'injustice. C'est le début de la colonisation, ça. Alors, quand les colonisateurs évacuent leurs responsabilités, eh bien, c'est la loi du plus fort qui s'impose. C'est ça ? Et ce message, je le délivre, si j'ose dire, en même temps, à ceux qui regardent les affiches de Médecins du Monde, où M. Milosevic est comparé à Adolf Hitler, qui est une comparaison qui est valable dans la mesure où Staline peut être comparé à Hitler.
Ben, ils sont socialistes tous.
Mais ils sont socialistes, et, mais personne ne dit que ce qui se passe en Bosnie-Herzégovine, c'est la conséquence de la politique menée par un gouvernement communiste. Et que ceux qui dénoncent ce gouvernement en oubliant de dire qu'il était communiste sont tous d'anciens communistes. Communo-trotskistes, communo-socialistes, communo-maoïstes, communo-spontanéistes, tous ces petits marquis de la société d'aujourd'hui, n'est-ce pas, milliardaires, ou en tous les cas très largement millionnaires en fonds lourds, sont les enfants de la révolution bidon de 1968.
Oui, ça c'est tout à fait frappant. Tous ceux qu'on voit, que ce soit...
On m'a dit que monsieur Julie avait renversé un motocycliste
portugais
qui se trouvait dans le coma, mais que monsieur Julie, dont tout le monde parle, se portait très bien. En revanche, c'était la santé de monsieur Julie qui, je crois, préoccupait ses confrères.
Oui,
ce portugais ne serait pas livré à une agression antimédiatique en se mettant sous les roues de monsieur Julie.
Ça
serait encore un salazarien ou un fasciste portugais, que ça ne m'étonnerait pas.
Mais on ne peut pas le savoir parce que pour l'instant il n'est pas interrogeable.
Oui,
renversé.
Mais cela nous vaudra certainement deux ou trois excellents éditoriaux de monsieur Julie et de quelques-uns de ses amis.
Alors, oui, Victoria.
Plusieurs messages. On aimerait que l'émission dévie un peu sur les questions de politique étrangère. Yougoslavie, Bosnie.
La question qui m'intéresse, c'est de savoir si, à votre avis, Jean-Marie Le Pen, nous sommes fondés, dans l'intérêt national, à intervenir dans ces conflits, que ce soit le conflit tchécoslovaque, ou d'éventuels conflits.
Vous connaissez mon point de vue. Je l'ai exprimé dans une ambiance quelquefois
houleuse,
pas chez nous d'ailleurs, mais enfin lors de l'affaire d'Irak. Et je suis à quelques années de distance, tout à fait sûr d'avoir eu raison. La politique étrangère doit être faite en regard de l'intérêt national. Et on va s'apercevoir que, comme dans beaucoup d'autres circonstances, les prosélytes de la conscience universelle vont sans doute causer beaucoup plus de morts que ne l'auraient fait les belligérants entre eux.
Alors je vous propose, Jean-Marie Le Pen, une petite pause, puisque vous savez que, enfin vous êtes un habitué de cette émission, presque, on peut dire, et vous savez que je reçois régulièrement au téléphone Marc Dem, que vous connaissez peut-être.
Oui, bien sûr.
Qui nous fait un petit topo sur la situation des affaires religieuses. Et je sais qu'il est au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a encore, vous? Elle râle, elle groume.
J'ai plein de questions.
Le dernier numéro de Reconquête publie un article fort intéressant de Vincent Dormieux, ce qui n'est pas mon cas d'ailleurs. Je ne dors pas mieux, c'est ça que je voulais dire. Surtout après avoir lu ça, il a intitulé ça « Ils ne savent pas ce qu'ils disent » et c'est surtitré « Clérocratie électorale ». Et alors il a recensé quelques propos d'évêques. On va voir, vous allez baigner pendant quelques secondes dans la charité, Jean-Marie Le Pen, et je pense que ça va vous faire du bien. Alors Monseigneur Bagnard a dit, enfin Monseigneur, c'est pas le mien, c'est Bagnard évêque a dit, certaines paroles de Monsieur Le Pen sur la pureté de la race blanche font un peu penser à Hitler. Est-ce que vous vous souvenez à quel moment vous avez parlé de la pureté de la race blanche?
Non, pas du tout. C'est peut-être où Monseigneur Bagnard a-t-il entendu ça? Probablement dans des lieux qu'il ne devrait pas fréquenter.
Alors, Monseigneur Fillet a dit « Souvent, Monsieur Le Pen a pris des positions racistes. » Monseigneur Rosier dit « L'immigration dans le contexte d'aujourd'hui est peut-être le lieu le plus porteur et le plus appelant, c'est bien du langage de Monseigneur, le plus appelant de valeurs et d'exigences au plan de la vie, au plan de la vie relationnelle sur le chemin de la solidarité et de la tolérance. » Si vous voulez une photocopie, si vous voulez le texte, vous pouvez acheter le numéro de Reconquête qui vient de sortir, vous verrez, et vous essayerez de comprendre. Le message du Front National, a dit Monseigneur de Courtrai, et son choix prioritaire des Français heurte la conscience catholique. Donc vous savez que le choix prioritaire des Français heurte la conscience catholique, c'est-à-dire que préférerait que vous ayez un choix prioritaire des étrangers. Ça ne heurterait pas la conscience catholique. Le discours du Front National fait de la nation française un absolu, dit Mgr Saint-Macary.
C'est faux.
Mais c'est bien sûr comme le reste. Je suis très gêné, dit Kofi Évêque, lorsqu'à... C'est pas Kofi Yamiam, là, c'est Kofi Évêque. Lorsqu'à certaines occasions, le Front National commence un congrès ou une réunion politique par une messe. Ça le gêne, lui, qu'il y ait une messe. Je comprends, d'ailleurs. Les adeptes du Front National ne savent probablement plus le Notre Père, ni quel sens Jésus-Christ nous invite à discerner dans ces simples mots, héritiers de 15 ou 16 siècles de christianisme. Je sais pas bien, 15 ou 16, ça c'est Monseigneur Herbulot. Ah oui, c'est celui qui construit la cathédrale lessiveuse. Héritiers de 15 ou 16 siècles de christianisme, ils ne sont absolument en rien héritiers de la foi que mettaient en œuvre leurs ancêtres. Comme ça, vous êtes au courant, vous êtes déshérités par Herbulot évêque. Herriot évêque, vous évoquez le FN, je ne pense pas qu'il soit un parti chrétien alors qu'il prétend l'être. Voilà. Car certains propos de son programme portent des menaces graves pour la dignité des personnes humaines. Je pense qu'il n'a jamais dit ça du Parti communiste, par exemple. Et les chrétiens auraient-ils porté Hitler au pouvoir s'ils avaient su? Une question analogue se pose aujourd'hui pour vous. Je veux parler du Front National et de la pensée qui sous-tend les déclarations et les propos de M. Le Pen. Ça, c'est Mgr Sahuquet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un couple de comiques dans le temps qui s'appelait comment? Castel et Sahuquet. Voilà. Et je ne savais pas qu'un des deux était devenu évêque. Et ben, vous voyez, à lire les journaux, on apprend plein.
Sahuquet, c'est une dame.
Et ben, et alors? Et on a tout vu maintenant, on peut tout. Moi, je crois tout possible. Tout possible. Voilà.
C'est pas une dame, Sahuquet?
Si, si, mais si.
C'était Lucette, mais je l'ai bien connue, en plus, elle était adorable. La pauvre, elle est montée au ciel. Enfin, la pauvre. Oui. Non, pas la pauvre. Mais c'était, ils étaient adorables. Castel est toujours, sévit toujours avec des sketchs dont la drôlerie est proportionnelle à la mauvaise qualité. Mais, parce qu'il faut dire qu'il est très très mauvais, mais il fait bien rire, tandis que Lucette, elle est partie. Voilà, alors, on peut peut-être rendre la parole à des gens sérieux pour poser des questions. Bonne année à Jean-Marie Le Pen, dit un auditeur. Que pense-t-il du retour des communistes en Lituanie? Ça, c'est une vraie question, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment analysez-vous cette curieuse affaire?
Je crois que les communistes tablent sur le même réflexe qui ramène périodiquement les socialistes au pouvoir. Il suffit de confier le pouvoir à la droite en espérant qu'elle ne pourra pas résoudre les problèmes dans le temps qui lui est imparti, et pour lui faire grief ensuite de ses échecs. Et c'est ce qui est arrivé en 1988, après que M. Chirac ait avec présomption accepté de cohabiter avec M. Mitterrand, comme si on allait dîner chez le diable avec sa petite cuillère à dessert. Eh bien, je crois que nous allons vivre un nouvel épisode de cette histoire. C'est très préoccupant, mais c'est très préoccupant non seulement en Lituanie, c'est très préoccupant dans l'ensemble du monde soviétique.
Et en Russie, ce matin, M. Tchernomerdin, qui s'appelle comme ça, ça fait même rire les Russes, je peux vous dire, j'ai des Russes à la maison, la nomination de M. Tchernomerdin comme Premier ministre, ça veut dire mère de noir en russe, rue.
Oui, Tchernosium.
Tcherno, c'est noir. Les Russes savent très bien ce que merde veut dire. Ils n'ont pas besoin d'un dictionnaire. Oui. Donc pour eux, Tchernomerdin, c'est le maire de noir. La nomination de ce communiste comme Premier ministre a été immédiatement suivie par le rétablissement du contrôle des prix sur les premières nécessités. Ce qui en soi n'est pas une mauvaise mesure, puisque c'est vrai qu'il y avait un problème de famine, littéralement, des pauvres gens, des pauvres, des vieux, des chômeurs en Russie. On se croirait Paris quand on est dans les rues de Moscou, mais le résultat, c'est que ça va aboutir très très rapidement à une reprise en main par l'appareil du parti
qui
continue à fonctionner.
Absolument.
D'autres questions? Il y en a tellement qu'on va être obligé d'éliminer.
Peut-être quelques critiques là. Jean-Marie Le Pen, n'êtes-vous pas un peu timoré? Si vous faisiez un coup d'État, nous vous suivrions, dit cette auditrice. Nos idées ne triompheront jamais par la voie démocratique, mais à l'occasion d'événements imprévisibles.
Voilà, c'est la voie de Dieu, ça.
Jean-Marie Le Pen est-il démocrate? Pense-t-il que la démocratie est le meilleur régime?
Non.
Que pense-t-il de la monarchie?
Je suis tenté de dire que c'est le moins pire.
C'est ce que disait Winston Churchill dont on parlait au début de cette émission.
C'est
le pire des régimes à l'exception de tous les autres.
Oui, c'est ça.
C'est une opinion que je ne partage pas, je m'empresse de le dire. Mais enfin, je trouve le...
Bon, alors sur la monarchie, vous ne partagez pas les opinions de M. Beketch.
Je n'ai pas... une opinion arrêtée, et je serais tenté de dire que quand même tout dépend un peu du monarque.
Ça prouve bien que vous n'êtes pas monarchiste, voilà. Hein, parce que ça c'est exactement la définition du non-monarchiste.
Et avez-vous lu Le Parti de Dieu de Frossard? Qu'en pensez-vous?
Oui, je ne l'ai pas lu, j'en ai lu des critiques et j'ai eu tort de ne pas me porter à l'original, mais j'en ai entendu dire du bien.
Alors il y a une question, pardon, qui revient à chaque fois que je vous invite à peu près, mais je vais vous la poser. Alors, en général, je la mets de côté parce qu'elle me paraît hors sujet, mais là, elle est pratiquement dans le sujet qu'on vient d'évoquer il y a 2 minutes. Un auditeur dit: beaucoup prétendent que deux responsables du Front National font partie de la secte Moon. Est-ce vrai que Jean-Marie Le Pen rassure son électorat sur cette question?
Ah, mais il n'y a aucune raison de le rassurer.
Voilà.
Il n'y a aucune raison de le rassurer. C'est tout à fait probable. Mais c'est même certain. Je crois que M. Serac, qui est député du Front National, appartient à ce que l'on appelle la secte Moon. C'est-à-dire à l'église de l'unification, qui est une secte, peut-on dire, protestante, comme il en existe quelques centaines depuis les épiscopaliens, en passant par les mormons et d'autres. Et on ne voit pas ce que cette religion a, pour ce qui me concerne moi, c'est-à-dire le comportement social de ses fidèles, quoi que ce soit de reprochable. Je crois qu'il y a une confusion qui est délibérément faite entre certaines sectes d'illuminés asiatiques et cette conviction, n'est-ce pas, ou cette église, dont je dois dire que je ne me sens pas le droit que je ne me sens pas le droit de critiquer. Moi, je suis le président du Front National. J'anime un mouvement politique qui reconnaît à chacun de ses membres sa liberté de convictions religieuses. Il y a au Front National des catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, des athées. C'est leur comportement social et civique qui fait que nous les acceptons ou les écartons. Nous ne nous occupons pas des problèmes religieux. Nous reconnaissons bien sûr le rôle éminent de la religion chrétienne dans la fondation et la culture de notre pays. Et nous ne cachons pas nous-mêmes nos propres convictions religieuses. Et il est vrai que les catholiques sont la religion dominante. Pour combien de temps on peut se le demander à la lueur de certaines déclarations épiscopales. Mais je dois dire que je n'ai aucune raison de renier ceux des membres du Front National qui sont les fidèles de telle ou telle religion. Et ça n'est pas les attaques que lance contre M. Moon, le Parti Socialiste et M. Monroy et ses amis, ni les partis communistes, parce qu'il me semble qu'il y a une des raisons qui justifie la haine que ce qu'on appelle la secte Moon reçoit, c'est que c'est un mouvement anticommuniste, et que c'est probablement la vraie raison pour laquelle la secte Moon est condamnée. Pour le reste, ça ne me regarde pas. À partir du moment où les gens de cette religion se conduisent comme des bons citoyens et comme des bons militants, j'ai aucune raison de ne pas les respecter, de ne pas respecter leur choix.
Ce qui me frappe quant à moi, c'est qu'on ne pose la question qu'à propos de la secte Moon. Il viendrait à personne à l'idée d'oser demander à Jean-Marie Le Pen. Il paraît que deux de vos adhérents sont épiscopaliens ou assidim, parce qu'immédiatement, on sait très bien que ça provoquerait le scandale. Mais ouais, la secte Moon, on peut dire, mais de quel droit avez-vous des moonistes dans votre parti? Vous devriez en quelque sorte pratiquer l'exclusion.
Ceux que je connais sont des pères de famille tout à fait respectables et des citoyens tout à fait respectables.
Bien, Jean-Marie Le Pen, je crois qu'on va vous libérer parce que... Non, il y a encore une question. Alors, Victor, il y a encore deux ou trois questions, mais je crois que Jean-Marie Le Pen est...
Que pense Jean-Marie Le Pen du battage fait par le général Lacaze et son parti fantôme?
Je me demande d'où vient l'argent. Enfin, je crois savoir à peu près d'où il vient, puisqu'il me semble me souvenir que au moment où le général Lacaze entrait en politique, ses bureaux étaient situés dans je ne sais quel Arabisch Boarding Trad, n'est-ce pas? Il n'est pas tombé du ciel. Et ça m'étonnerait que ce soit simplement avec son indemnité parlementaire que le général Lacaze a pu s'afficher en 4x3 sur les murs de Paris. On se demande au bénéfice de qui, d'ailleurs.
du général Lacasse, probablement. En tout cas, là, maintenant, tout le monde le connaît. Et tout le monde sait qu'il ne ressemble à rien. C'est lui-même qui le dit sur ses affiches. Donc, au moins comme ça.
Non, c'est pas sérieux, ça.
Non, on peut dire que c'est une forme d'honnêteté politique.
Vous savez, moi, écoutez, le général Lacasse, c'est un homme charmant. Je l'ai comme collègue au Parlement européen. On ne le voit guère, il faut bien le dire. Et où il ne se fait pas remarquer, en particulier lorsqu'il y a des débats sur les questions militaires ou de sécurité des États.
En fait, lui aussi, sur ses affiches, il a eu droit à la petite moustache et à la mèche.
Ah ben, ça, c'est obligatoire. Vous savez, tout homme, y compris Monseigneur Lustiger, si on lui met une petite moustache et une mèche, il est absolument impayable.
Et un auditeur vous demande de rappeler... De rappeler que vous avez été le premier homme politique à dénoncer publiquement les dangers du sida, il voudrait savoir à quelle date vous vous en souvenez.
Ben, ça doit être 1985 ou je pense 85 ou 86 dans une émission d'ailleurs de l'heure de vérité. En un moment où en effet la question n'était pas portée devant l'opinion publique. Et d'ailleurs, le fait que j'ai osé en parler était considéré comme une incongruité, car il semble qu'il y ait un certain nombre de sujets qui sont considérés et décrétés comme tabous par les princes qui nous gouvernent et qui sont de leur ressort exclusif. Ils peuvent, eux, poser la question sur le tapis, mais porter la question devant l'opinion publique, mais il est évident que quand c'est nous qui le faisons, c'est considéré comme une grossièreté et comme une agression raciste et fasciste.
Et alors une ultime question, je dois dire que je suis un petit peu vexé, Jean-Marie Le Pen, parce que souvent j'ai essayé d'avoir la réponse à cette question et vous avez toujours refusé de me la donner. Et j'ai vu l'autre jour dans Le Secret, c'est même pas une question, c'est un secret. J'ai vu l'autre jour dans la lettre de Jean-Marie Le Pen que vous aviez levé le voile sur ce secret. Alors j'espérais toujours que ça serait chez moi que ça se passerait et ça n'a pas été le cas. Alors un auditeur dit, comment Jean-Marie Le Pen fait-il pour ne pas être révolté? Comment fait-il pour garder cet optimisme? Je vous avais demandé comment vous faisiez pour être toujours en forme. Et on a vu dans la lettre que vous aviez un secret. Mais vous voulez peut-être pas le répéter. Vous voulez peut-être pas répéter cet aveu du secret de votre forme qui a été publié dans la lettre de Jean-Marie Le Pen. Il fait semblant de ne pas savoir.
Quand je me trouve trop gros, je vais chez mon ami Cambusa pour perdre un peu de poids par une méthode d'ailleurs qui
consiste à affamer les gens simplement,
qui s'appelle la diète la diète disons contrôlée, professionnellement contrôlée, est quelque chose qui, je pense, tout à fait naturellement devrait nous garder en s'appelait comment le jeûne et l'abstinence en d'autres temps. Je crois qu'il y a un certain nombre d'ailleurs de règles religieuses qui on trouve leur origine dans des comportements de santé, c'est bien évident. Il y a une morale naturelle qui est en quelque sorte sanctifiée par le message divin. Et je crois que la diète fait partie de, le jeûne font partie de ces méthodes de santé. Et de temps en temps, c'est vrai, je vais me ressourcer sur les bords du lac Léman, parce qu'il faut bien que
de Genève.
Il faut bien que je me dépayse, parce que je pourrais aller bien sûr à Quiberon ou sur les bords de l'Atlantique, mais là je ne me sentirais pas dépaysé. Alors il faut que j'aille dans les, moi qui suis un homme de la mer, j'aille dans les montagnes.
Mais en tout cas ça donne des résultats, parce que là vous avez l'air en pleine forme, donc vous allez repartir
pour un tour. Et même pour deux.
Quand commence vraiment le grand cirque,
j'ai déjà commencé à dire vrai, mais enfin, comme nous sommes en campagne électorale deux fois par an à peu près, il faut bien que je limite un peu mon activité dans ce domaine. J'ai un certain nombre d'autres choses à faire. Et je vais commencer là, il y a trois mois, pendant lesquels je vais être mobilisé. Tant à Nice, parce que je vais faire de la présence sur le terrain, tout de même, c'est la loi du genre. Et puis aussi, je vais aller porter la parole du bureau politique, du comité central du Front National, dans les provinces françaises et dans un certain nombre de départements.
Mais
évidemment,
bon courage.
Je ne pourrai pas tout faire, mais on entendra parler du Front National, même si un certain nombre de journaux ne veulent pas faire leur métier, ben nous ferons le nôtre en tout cas.
Merci Jean-Marie Le Pen, bon courage, et puis à bientôt.
Et bonne année.
Je pense que vous reviendrez nous voir, et bonne année à vous.
C'est ravissant, ça, hein.
C'est beau.
Qu'est-ce que c'est?
Référence? Je ne sais pas.
Honte sur vous. À Inde.
Oui, mais je sais que c'est... Mais je ne saurais pas dire quoi.
Plusieurs questions d'auditeurs. Alors, Jean-Marie Le Pen nous a quittés, il est parti, pour une raison d'ailleurs très simple, c'est que... et qui montre à quel point je dois lui être reconnaissante d'être venu ce soir en descendant de son avion.
Ah oui.
Ça doit faire à peu près 38 heures qu'il n'a pas dormi.
Oui.
Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance d'être venu parce que ça n'était pas évident, son avion a pris du retard, etc. Enfin, il a tenu parole, une fois de plus. On me demande... les coordonnées du numéro de Reconquête, c'est-à-dire comment se procurer ce numéro. Eh bien, c'est extrêmement simple. Reconquête est publié par Chrétienté Solidarité, ou si vous voulez, le centre Henri et André Charlier. L'adresse est 12 rue Calmel, 75018, Paris. L'abonnement ordinaire est de 275 francs. L'abonnement de soutien est de... pardon, 385 francs, et c'est une revue mensuelle qui est dirigée par Bernard Romain Marie-Anthony, et dont le rédacteur en chef est Hugues Kerali, dont le rédacteur en chef adjoint est Michel Hubeau. Dans le dernier numéro, un papier de Bernard sur le retour du catéchisme romain, une analyse de ce catéchisme romain, un reportage sur les convois de Chrétienté Solidarité en Yougoslavie ou en ex-Yougoslavie, un hommage à Charles Maurras et à Jean Madiran, deux générations dans le parti de l'intelligence. Et à ce propos, d'ailleurs, je signale qu'à partir de la semaine prochaine, je diffuserai dans l'émission du mercredi une série d'entretiens d'une vingtaine de minutes avec Jean Madiran, qui a eu la délicatesse et la gentillesse de me proposer de se raconter, en quelque sorte. Plutôt d'accepter ma proposition que je lui faisais depuis des années. Et il a fini par accepter de se raconter. Donc on diffusera ces entretiens. Il y en a 7. Donc pendant 7 semaines de suite, un entretien toutes les semaines de 20 minutes avec Jean Madiran. Et je continuerai ensuite avec d'autres personnalités de la famille, ces entretiens. Ça me paraît une bonne idée. Et je signale que... Je signale que Jean Madiran sera donc notre premier invité à ces entretiens à partir de la semaine prochaine. Autre article dans ce même numéro de Reconquête, le recensement des injures de certains évêques de France à l'endroit des nationalistes en général et de Jean-Marie Le Pen en particulier. Je crois qu'il faut le lire parce que très souvent on me reproche d'être un peu sévère avec nos seigneurs, ben on verra que, après tout, eux ne mettent pas non plus de gants de velours pour nous triquer.
Et non.
Vous voulez dire
plusieurs
quelque chose?
Plusieurs auditeurs m'ont demandé la référence du disque de Haydn, comme dit un entend. Alors, c'est le concerto pour trompette, que vous m'aviez demandé sournoisement.
En mi bémol majeur.
Concerto pour trompette en mi bémol majeur, avec Roger Delmotte trompette et le Collegium Academium de Genève, dirigé par Robert Dunant. Voilà.
Alors, je parle souvent des auditeurs qui nous écrivent, enfin qui m'écrivent, et auxquels j'essaie de répondre, mais c'est pas très facile, d'abord parce que ça prend un temps énorme, d'une part, et d'autre part parce que c'est sordide, mais ça coûte beaucoup d'argent. Ça finit par coûter beaucoup d'argent, et il y a des moments où on ne peut plus. Alors, je voudrais lire la lettre d'un auditeur pour vous montrer comment on peut donner les verges à quelqu'un sans méchanceté, mais d'une façon très amusante. Vous savez que depuis quelques semaines, je reçois de temps en temps les jeunes gens de l'ANRS. C'est l'Association pour une nouvelle recherche scientifique. Et ils ne font pas l'unanimité, c'est moins qu'on puisse dire. Notamment, je les ai reçus sur des questions de datation historique, datation scientifique, etc. Et voilà ce que m'écrit cet auditeur. Cher monsieur de Beckett, soyez remercié pour nous offrir tous les mercredis... Oui, bonsoir Gauthier Guillet, c'est bien, vous nous chantez quelque chose après ou... Soyez remercié pour nous offrir tous les mercredis... Pardon ?
Peut-être un peu de bruit ?
Peut-être un petit peu, oui, je ne vous le cacherai pas. Donc cet auditeur me dit, soyez remercié pour nous offrir tous les mercredis soirs vers 20h15 l'équipe de Jalon. Bien sûr, vous l'appelez ANRS, mais ce n'est qu'un sigle, et à ce que vos nouveaux comiques disent, on sait bien qu'il s'agit de jalons. Le 23, j'étais avec des amis pour vous écouter. Il y avait un archéologue spécialiste du Proche-Orient, deux physiciens, un biologiste et diverses personnes qualifiées sur les problèmes de la datation. Vous nous avez fait tous hurler de rire. Je n'ai jamais autant ri depuis que vous aviez invité le ci-devant roi de la pompe, Charles de Fontbrune, dans les années 80 sur une autre radio. Une critique, d'après plusieurs convives, votre intervenant, quoique très drôle au demeurant, n'avait pas l'air de bien connaître la datation historique et scientifique, ce qui me fut confirmé par les personnes présentes. Vous connaissez les auditeurs, il y en a qui entendent mal ce que vous dites. Alors pour éviter toute confusion possible auprès des personnes innocentes qui ne connaissent pas ces sujets, il aurait été nécessaire d'être plus au fait de ces domaines et plus pointu, mais c'était très drôle quand même. Cette critique d'un pathos pseudo-catholique paracréationniste était vraiment à se tordre. Moi je n'ai pas tenu, ça m'a fait presque de rire. Mais est-ce vraiment l'heure pour de l'humour? Ce genre d'émission comique est dangereuse car elle élude le vrai problème. À quand le débat scientifique sérieux avec des scientifiques sérieux et qui connaissent le dossier? Pour ma part, je suis satisfait et je me réabonnerai à Radio Courtoisie et à Minute. Les occasions de se dilater la rate sont si rares de nos jours. Donc, cher monsieur de Beckett, continuez et ne pêchez plus. Voilà, j'ai bien compris que c'est du deuxième degré. Alors, je préfère recevoir ce genre de lettres que des lettres d'injures, encore que ce soit beaucoup plus cinglant. Mais je continue à dire que je ne suis pas là pour exercer la censure sur les gens qui ont quelque chose à dire. Un groupe de jeunes gens, de jeunes chercheurs, met tout son temps, tout son enthousiasme, toute sa volonté, tout son argent à essayer de créer un mouvement de contestation de l'ordre scientifique établi en rejetant les bases qui sont imposées aujourd'hui et qui sont des bases athées, et en substituant à ces bases des bases fondées sur l'écriture et sur la foi. Eh bien, moi, je dis que j'ai le droit, et je dirais même le devoir, de leur donner la parole. Et bon, si certains auditeurs trouvent ça ennuyeux, ça n'est jamais ennuyeux qu'une demi-heure par semaine, c'est quand même pas trop, même pas toutes les semaines, par exemple ce soir, ils n'étaient pas là, ça n'est quand même pas trop tragique. Je pense qu'il y a des gens qui sont ennuyeux plus longtemps qu'une demi-heure par semaine. Et d'autre part, si ça fait rire certains auditeurs, bah écoutez, c'est le rêve, puisqu'après tout, on a tellement peu d'occasions de rigoler en ce bas monde qu'il faudrait certainement pas s'en priver. Voilà ce que je voulais dire. Je me tourne maintenant vers Gauthier Guillet, qui lui est
beaucoup plus sérieux.
Non, après les annonces, ma petite Victoria, après. Quelqu'un qui est beaucoup plus sérieux, qui est Gauthier Guillet, qui va nous livrer sa revue de presse.
Oui. Enfin, je oui. Oui.
Oui, alors qu'est-ce que vous avez revu dans la presse?
D'abord, je vais vous parler de mon courrier, en fait, moi aussi.
Ah bon, c'est
vrai. Oui. Je ne sais pas si... Vous qui êtes un observateur assez attentif, je crois, de la vie sociale, Serge, ça vous a sans doute pas échappé qu'il y a une dizaine de jours environ, c'était Noël.
C'était, pardon?
Noël.
Je ne sais pas. J'ai vu les affiches qui nous prévenaient que c'était Hanouka.
C'était un petit
peu... Mais j'ai pas vu que c'était Noël.
C'était il y a 15 jours, 3 semaines.
Si, je vous assure, c'était Noël. Il n'y avait pas d'affiche.
Et moi-même, j'allais l'oublier, mais je m'en suis rendu compte parce que j'ai reçu, durant tout le mois de décembre, j'ai reçu au moins une trentaine de cadeaux, tous les plus extraordinaires, dans ma boîte aux lettres. Il y a d'abord eu Jean-François Kahn qui m'a écrit personnellement pour m'offrir une mini-télévision. C'est très pratique pour le voir dans les émissions où il passe, pour le voir postillonner en direct. Le Nouvel Observateur qui m'a offert un mini-ordinateur agenda ou un truc comme ça, sans doute pour me remercier de l'excellente publicité que je leur fais régulièrement sur cette antenne.
C'est vrai.
Il y a un autre journal qui m'a proposé une calculatrice, un quatrième, un stylo plume, et le plus fort étant évidemment France Abonnement, mais qui lui regroupe une centaine de journaux, et qui n'hésite pas à m'annoncer que je suis sélectionné pour gagner, sous réserve tout de même, 1 500 000 nouveaux francs.
Ah, moi aussi.
Ah, aussi. Mais ça m'arrangerait. J'espère que c'est moi qui ai gagné et pas vous deux.
Écoutez-moi, on m'a dit que j'avais quand même de fortes chances. Hein. Bon, il faut peut-être s'abonner, je sais pas, j'ai pas très bien compris. D'ailleurs, j'ai rien reçu de minute. Vous m'offrez quoi? Le four à micro-ondes?
Une trousse à outils, nous.
Mon four à micro-ondes est en panne, j'espérais. Bon. Enfin, en tout cas, j'ai rien reçu de minute.
On offre des montres qui ne marchent pas, des stylos qui peuvent, et des trousses à outils.
Alors, j'ai pas testé les cadeaux. Mais j'ai quand même remplacé ma boîte aux lettres par une hotte et j'ai demandé à mon préposé postal, enfin mon facteur, je veux dire, mon facteur antillais de troquer son costume PTT pour celui beaucoup plus approprié de Père Noël. Il a refusé tout net ma proposition et il m'a fait remarquer que, là j'étais très déçu, que mon amitié avec les principaux directeurs de journaux parisiens était en fait bien fragile parce qu'en fait de cadeaux, il s'agissait de propositions d'abonnement. Et ce qui fait que je me suis aperçu en lisant attentivement ces lettres, ce courrier qu'on m'a envoyé, que pour gonfler leur portefeuille d'abonnés, certains journaux n'hésitaient pas finalement non pas qui finalement a acheté acheté leurs abonnés. Ce qui fait qu'on a un incroyable changement. Avant, c'était les abonnés qui achetaient le journal. Maintenant, c'est le journal qui achète les abonnés.
Ben, c'est pour ça que la presse est en train de crever, je vous signale. Si vous n'avez pas compris ça,
ah, il
faudra revoir vos leçons.
Ah bon ? Quoique, ouais. Regarde, en lisant bien les propositions d'abonnement avec cadeau, parfois, ils n'offrent pas quand même. J'en lis une, j'ai un exemple type. Regardez bien ces propositions d'abonnement. Il y a marqué, vous avez un mini-stylo ordinateur télé d'une valeur de 572 francs, plus 12 numéros de Poubelle Ops Magazine à 300 francs, total 872 francs, c'est barré, et ça devient 400 francs seulement, soit 55% d'économie. Mais subrepticement comme ça, mine de rien, on vous a fait payer le cadeau. Certes, une somme symbolique, on vous a fait payer le cadeau quand même, et puis on vous fait payer l'abonnement plein pot.
En fait, on vous donne la télé et on vous fait cadeau du journal.
Ah, au moins que ce soit l'inverse.
Oui, c'est quelque chose comme
enfin,
ça.
Enfin, en tout cas, avec ce genre de cadeau, si Jean-François Kahn m'invite à dîner chez Lip, je m'en vais avant l'addition.
Oui, il vaut mieux.
Marc, il ne m'a pas invité.
Non, il n'y a pas beaucoup
faire, de s'il écoute. Ah, vous croyez? Enfin, en tout cas, boudons pas notre plaisir. Certes, ce sont peut-être de faux cadeaux, mais au moins, les journaux nous ont apporté un peu de rêve. Et je crois qu'on en avait besoin en ce début d'année 93, parce que comme ils nous le rappellent eux-mêmes, l'année qui vient de s'écouler n'a pas été très rigolote, et l'année qui vient maintenant, l'année 93, va être encore pire. Ça va être dramatique. Alors, il y a le Nouvel Obs qui nous l'annonce, et qui nous explique en quoi ça va être terrible. Il nous fait cette terrible révélation. Il y a désormais 2000 néo-nazis en liberté en Allemagne.
En Allemagne, bon, ça va, j'ai
une oui, faudrait,
mais c'est à ce moment-là qu'ils décident d'ouvrir les frontières. C'est de la folie, c'est de la démence, parce que les douaniers pouvaient les arrêter. 2000, hein, vous voyez un type avec un crâne rasé, l'air bon et la vue basse, vous l'arrêtez, vous dites vous êtes néo-nazi. Il n'y a pas du tout, moi je suis trafiquant de drogue. Excusez-moi, monsieur, entrez. Mais.
Moi, je me suis dit que sur 80 millions d'Allemands, c'était quand même 2000 néo-nazis.
Ah, c'est
pas une menace pour eux.
S'ils font comme certains, en quelques générations, ils vous ratatinent.
Eh ben, ça va beaucoup plus vite que ça, à mon avis, parce que la même semaine, l'Express nous annonce qu'en fait, il y a un Allemand sur quatre qui est sensible au thème néo-nazi.
Donc il y a 8000 Allemands, si je comprends bien, en Allemagne. Moi, je croyais qu'il y en avait 10 000 fois plus.
Mais non, moi j'ai fait un calcul. A priori, il y a 20 millions de néo-nazis en Allemagne. Ça augmente terriblement. D'un journal à l'autre, ça va très très vite. Et l'Express nous explique pourquoi ils sont sensibles au thème néo-nazi. Ils nous donnent un exemple. Ils nous disent, par exemple, un Allemand sur quatre est contre l'immigration.
Eh oui.
Donc, vous voyez, le nombre des néo-nazis augmente d'une façon vertigineuse. Alors, vous imaginez ce que ça va
dire. Ils aiment les autoroutes
en 1993.
Construites par Hitler, ne l'oubliez jamais. Et vous savez, je pense à ça, quelques semaines avant Noël, il y avait un très très beau, un très bel article, je crois que c'était dans l'événement du jeudi, qui montrait ce que les nazis avaient pourchassé en matière d'art. Et alors, il y avait un tableau. Qui est une des choses les plus laides que j'ai vues au monde, une espèce de femme maigre, nue, peinte en jaune, sur fond rose, c'était d'une hideur. Un enfant aurait fait ça, on l'emmenait chez le psychiatre. Mais là, c'était un grand peintre allemand qui a exposé en France, etc. Et le titre de l'événement du jeudi, c'était en très gros. Et ils appelaient ça de l'art dégénéré, point d'exclamation. Alors c'est très exactement ce que c'était. C'était très exactement, positivement, de l'art dégénéré.
J'ai manqué cet article remarquable.
Oui, c'est dommage.
Il y a d'autres sujets d'inquiétude, à part l'art dégénéré. C'est l'Express, toujours, qui nous donne la liste des sujets d'inquiétude. Alors ça va très mal en France, que vous n'en seriez pas perçu. Et ils nous le disent. Quel champ de ruines. Des centaines de victimes dans l'affaire du sang. Une gauche dévastée. C'est vrai que ça va très mal. Une crise de confiance aggravée entre gouvernants et gouvernés. La haine tranquille qui s'installe dans tous les recoins de la société. Et à la suite de ça, courageusement, l'Express n'hésite pas à nous citer la victime de l'année. La victime de l'année, alors on se dit, peut-être un bosniaque.
Peut-être le docteur Garetta aussi.
Vous n'êtes pas tombé très loin. Hein. Hein, vous n'êtes pas tombé. Parce que la victime de l'année, c'est Laurent Fabius. Et on nous le dit. Broyé par une affaire, il a été broyé par une affaire dans laquelle il avait personnellement joué un rôle positif.
Séropositif même, on pourrait dire.
Ils sont contentés de dire positif, mais ils nous ont pas expliqué en quel sens il était positif. Mmh. C'était peut-être ça qui voulait dire.
C'était ça, à mon avis.
C'était ça, parce qu'il n'y a pas eu sans doute assez de place. On ne nous dit pas en quoi le rôle était positif. Mais on croira l'Express sur parole. Et d'ailleurs, l'Express a trouvé un petit peu de place quand même pour demander son avis à Gérard Miller sur la situation dramatique de la société. Et Gérard Miller nous explique, voilà, tout le mal vient du fait que la foule est devenue folle, alors qu'elle n'était pas avant. Et elle réclame en pâture non seulement des vrais coupables, mais aussi des innocents. Bon, Et Gérard Miller donne des détails.
Je vais faire un méchoué avec le bouc émissaire, donc.
Ça a été de m'interrompre.
Pardon.
Et Gérard Miller donne... Non, parce que c'est une chronique sérieuse, moi je perds mon sérieux avec vous.
Vous voulez pas vous mouiller politiquement, en plus.
Et Gérard Miller donne des détails dans d'autres journaux, parce que Gérard Miller est interrogé partout, ce mois-ci. Et alors, dans Sud-Ouest Dimanche, vous voyez, je vais chercher mes informations très loin, Gérard Miller nous explique que... Comme tous les psychanalystes, il essaye toujours de nous faire croire que tout le monde est fou, hein, donc pour expliquer ses propres névroses. Donc il nous dit « Nous sommes tous des hérissons ». Alors pour moi qui me prenais pour Napoléon jusqu'à présent, vous vous preniez pour Jeanne d'Arc, je crois, Serge, c'est une terrible révélation. Nous sommes tous des hérissons. Vous aussi, Serge, vous êtes un hérisson. C'était un coup terrible pour moi.
Je suis piqué au vif.
Mais Gérard Miller nous l'explique. J'ai pris le petit truc de... Parce que ça ne paraît pas évident comme ça au départ. Hein. En vous voyant, on dit « Ah, hérisson, si ». Serge Becquet, vous êtes un hérisson, et Gérard Miller nous explique, c'est très simple. C'est parce que. Parce que. Il n'y a aucun espoir dans la confrontation, nous dit-il. Il faut vivre ensemble, mais à distance. Schopenhauer, que cite Freud, nous dit les petits hérissons, ils sont dehors et ils ont très froid, alors ils se rapprochent pour se réchauffer. Et en se rapprochant, évidemment, ils se piquent. Alors ils s'éloignent, et en s'éloignant, ils ont encore froid.
Dites-moi, vous Gérard Miller, là, c'est un client ou un médecin?
C'est un psychanalyste, c'est-à-dire qu'il peut être les deux à la fois.
Ah, d'accord.
Non, mais alors, attendez, parce que là, c'est pas très clair comme ça. Mais il donne une explication, il donne un exemple prise dans la société française. Alors voilà, l'exemple, c'est facile. Il nous dit « J'essaie de montrer que nous sommes fascinés à la fois par ce qui brille, les faces, le défilé de gouttes du 14 juillet, et aussi bizarre que cela paraisse... »
Qu'on fait avec les hérissons, avec les piles.
Oui. Aussi bizarre que ça paraisse, nous sommes fascinés également par l'horreur et la haine. Donc il y a un lien, nous dit-il, je cite, hein, j'invente rien, il y a un lien entre Le Pen et les princesses. Pourquoi? Parce que nous ne savons jamais ce que nous aimons et ce que nous n'aimons pas. Alors à quoi servent les princesses? Eh bien, notamment, elles servent à satisfaire notre cannibalisme.
Là, oui, ça, je ne
sais pas pourquoi. Quant à Le Pen, ce qui est saisissant chez Le Pen, c'est que lorsqu'il affirme, je dis tout haut ce que chacun pense tout bas, il n'a pas tort. Voilà, vous avez compris pourquoi on est des hérissons.
Oui, absolument, c'est parfaitement clair.
Ça tient debout. Alors, sur ce point, Gérard Miller nous donne d'autres explications dans Le Monde.
Il vous reste 4 minutes, vous tenez à finir sur Gérard Miller.
3.
Eh bien, je finirai sur Gérard Miller, tant pis. Non, il y a BHL aussi, j'aimerais bien parler de BHL. Alors, Gérard Miller nous dit dans Le Monde, là où Le Pen est très fort et très machiavélique, c'est qu'en fait, il regarde s'opérer la déliquescence de notre société. Et il le regarde en faisant quoi? En se taisant. Ce qui fait que, grâce à Gérard Miller, j'ai appris que Le Pen était un personnage extraordinaire, puisque non seulement il a compris avant les autres politiques que nous étions des hérissons, mais en plus, ce que nous pensons, il le dit tout haut, mais en se taisant, pour être encore plus efficace. Ça, c'est quand même très fort. C'est quand même très fort. Alors, tout va très mal. Alors, tout va très mal, et je vais aller très vite. Je suis obligé de vous parler de la Bosnie, parce que tout va très mal en Bosnie également. Et tout le monde essaie de trouver des solutions. Le Nouvel Observateur nous dit, c'est très simple, ce qu'il faut faire pour éviter la guerre, c'est écouter les opposants serbes, auxquels on ne donne pas suffisamment la parole dans les meetings d'intellectuels, et isoler les gouvernants serbes, en les déclarant criminels de guerre. Voilà l'excellente méthode qui va éviter la guerre, qui va résoudre tout le problème. Par exemple, on aurait fait ça avec Hitler en 1939, voilà, c'était gagné.
Alors ça, c'est pas des hérissons, c'est des faucons, il n'y a qu'un faucon.
Bon, mais au fait, alors on se demande pourquoi au fait il faut aider les Bosniaques. Peut-être parce que c'est terrible, parce qu'ils meurent de bombes, c'est bon. Non, il y a ça, peut-être c'est vrai, oui, ok. Mais il y a une autre raison. Une autre raison, Bernard Kouchner nous l'a donné à l'antenne de France Inter, et Bernard-Henri Lévy nous le confirme dans Le Monde. Il faut aider les Bosniaques parce que finalement, et là je cite Bernard Kouchner, il faut sauver Sarajevo. Parce que Sarajevo, c'était le modèle de l'Europe que nous voulons construire demain, avec une multitude de communautés qui vivent ensemble. Ben, voilà,
ça marche rêver. D'ailleurs.
Oui, ça marche très bien.
Ça marche très très bien.
Ça marche très bien, donc c'est un message d'espoir, parce que ce que finalement Bernard Kouchner a réussi à faire hier pour le Cambodge, aujourd'hui pour la Somalie, ce qu'il va faire très bientôt pour la Bosnie, ben, je crois que demain il pourra le faire pour la France et pour l'Europe de Maastricht. Donc on est rassuré, ça va beaucoup mieux. Quant à Bernard Lévy, il nous dit, il nous le confirme, Sarajevo, c'était l'Europe cosmopolite de Maastricht. C'est BHL qui le dit, dans ces termes. Et pour sauver Sarajevo, là je n'ai pas bien compris, il faut en finir avec la religion des droits de l'homme. BHL se contredirait, peut-être.
Allez savoir, tout est possible.
Mais lui-même le dit en citant une phrase de Baudelaire, en citant une partie d'une phrase de Baudelaire que j'avais déjà citée moi-même en parlant de Bernard Lévy, justement. Bernard Lévy dit, c'est vrai, peut-être que je me contredis, mais en fait, je revendique comme Baudelaire le droit de me contredire. Il oublie la fin de la phrase. Baudelaire disait, je revendique le droit de me contredire, mais aussi de m'en aller. Bernard Lévy, lui, ne le sent pas.
Et ben voilà, espérons qu'il va finir par s'en aller.
Une petite annonce, une messe sera célébrée pour Jacques Perret, samedi 9 janvier à 16h à Saint-Nicolas-du-Chardonnay. Et le Cercle des étudiants de Paris invite à une conférence de Marie-France Tirebois, mardi 12 janvier à 12h, à l'Université Paris 5 de Malakoff, 10 avenue Pierre-Labrousse à Malakoff, métro Porte de Vanves.
Alors, deux concerts. La messe du Sacre de Louis XVI de Giroux, suite de fanfare de Mouret, Requiem de Gilles. Ça se passe à l'église Notre-Dame, 35 rue de la Paroisse à Versailles, vendredi 8 janvier à 20h45, par l'ensemble Jubilaté de Versailles. Et le même ensemble, le 11 janvier à Saint-Eustache, Requiem de Gilles, suite de fanfare de Mouret et messe brève Gaudete in Domino Semper de Giroux. Ça se passe le lundi 11 janvier à 20h45. Et puis le dimanche 10 janvier, une recollection Épiphanie et Nouvelle Évangélisation à la chapelle Notre-Dame-du-Lys chez les religieux de Saint-Vincent-de-Paul, animée par l'aumônier du Nouvel Élan Marial, monsieur l'abbé Croza, agréé par le cardinal archevêque de Marseille.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national, à Paris sur 95 MHz 6, à Chartres sur 104.5, au Mans sur 98.8, à Cherbourg sur 87.8, à Caen sur 106, au Havre sur 101.1. Vous venez d'entendre le libre journal de Serge de Beketch, diffusé en direct le mercredi 6 janvier de 18 à 21h, et en différé le jeudi 7 janvier dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Pour nous aider à demeurer libre, vous pouvez adhérer à notre association. La cotisation pour l'année 1993, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Nous adresserons 3 exemplaires de chaque publication aux adhérents qui auront décidé de cotiser pour une somme supérieure à la redevance de télévision. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal. Commandez les cassettes correspondant aux 3 heures de l'émission pour le prix global franco de port de 130 francs ou 95 francs seulement si vous êtes adhérent de notre association. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour les cassettes, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Par avance, merci. Je vous rappelle l'adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75-016 Paris.
Merci, bonne semaine, que Dieu nous garde.
Pour la vieille tradition, pour la gloire et la vantine, que lutter ces batailles. Pour la gloire et la vantine, que lutter ces batailles. Notre gloire est...
Il est 20h57, voici le programme de la soirée et de la nuit sur Radio Courtoisie.